ça semble finit par se ressembler. Rien de mieux pour reprendre le contrôle de sa vie et trouver son équilibre. Je suis Guy Bertol Tegue, démerdard dans l'âme et cofondateur de Super Séducteur de Recruteurs, cabinet de conseil et coaching en stratégie efficace de recherche d'emploi sur mesure. Avec Débrouillard, je vous propose sous forme de discussion sans fil de rencontrer ensemble les entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont formellement faire détonner votre équilibre.
Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus.
1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Franklin Djinge de la chaîne Réussir en Allemagne. Bienvenue Franklin sur la chaîne.
Merci à toi, Guy Bertol, et merci de m'avoir invité.
Yes, je suis assez content de t'avoir sur ce podcast parce que peut-être pour commencer, j'étais découvert à travers notre ami commun, mon associé Constantin Faum, parce que tu as fait une vidéo avec lui sur ta chaîne YouTube et très intéressante où vous avez parlé un petit peu de d'orientation, tout ce qui concerne aussi la recherche d'emploi, CV, vu que c'est un sujet que nous on traite de notre côté avec Super Séducteur de Recruteurs. Et de là, je suis allé en fait regarder le reste, enfin ce que tu as fait comme, enfin tout le travail que tu avais eu à faire sur ta chaîne, vu que la chaîne datait déjà, j'avais plein de vidéos, plus de 80 vidéos je pense, si je ne m'abuse. Ouais. Et je suis tombé en fait sur une vidéo, tu vas me rappeler le titre, c'était par rapport à une bande de d'étrangers qu'on a rapatriés en masse. C'est une vidéo qui a beaucoup buzzé, je me rappelle plus du titre, mais c'était quelque chose qui a tourné quand même. Ouais. Et ça m'a fait un petit peu voir un petit peu... enfin, j'ai creusé en fait pour voir un petit peu ce dont tu creuses. En fait, tu maîtrises le sujet, quoi, parce que là, tu parlais des paragraphes, tu parlais vraiment de toute la réglementation allemande pour ce qui concerne l'immigration en Allemagne, ouais. Que ce soit pour les étudiants.
Le droit sur le séjour, quoi.
Le droit, effectivement. Et c'était cohérent même avec le titre de la chaîne, quoi, Réussir en Allemagne. Donc, comment est-ce que toi, tu présentes cette chaîne-là aujourd'hui, cette chaîne? C'est quoi l'objectif de cette chaîne? Et peut-être, on peut commencer par là.
Ouais. Peut-être déjà avant d'aller dans l'objectif de la chaîne, peut-être je vais d'abord peut-être donner un peu les raisons qui m'ont motivé à créer la chaîne, en fait. Donc, je suis arrivé en Allemagne, c'était en 2011, comme toute personne, hein, comme tout Africain qui va vers un avenir meilleur. J'étais à l'époque très jeune, j'avais, je crois, 21 ans, 22 ans. Et en fait, comme nos parents au pays, ils envoient un enfant en Europe pour un avenir meilleur. Donc, ça peut être l'Allemagne comme la France. Mais maintenant, je suis arrivé en Allemagne et de mon côté, les études allaient plutôt bien parce que j'avais déjà fait un baccalauréat F2, option électronique, au Cameroun. Yes. Donc, j'étais déjà un peu trop dans quoi je devais faire, quoi. Et la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Allemagne, c'est d'abord le fait qu'au Cameroun, on me considérait parce que j'ai fait un BPC. Après, j'ai viré pour aller faire l'enseignement technique. Donc, notamment, j'ai fait un préparatoire F2, un bac F2. Et au Cameroun, et je pense que c'est comme ça dans l'Afrique centrale ou l'Afrique même en général, on considère ceux qui font la technique, à moins que ça ait changé, on considère ceux qui font la technique comme des moins intelligents, en fait, que ceux qui ont fait la générale. Ouais. Et c'est ce qui m'a frappé le plus en Allemagne, quand je suis arrivé en Allemagne, c'est le contraire. Ça veut dire que tu es dans un pays, première puissance économique mondiale, mais le contraire. Ça veut dire qu'on veut se développer au Cameroun, mais on n'applique pas ce que les gens qui sont développés, qui veulent aller encore plus loin, appliquent, en fait. Donc, c'est ça qui m'a d'abord, c'est un peu le premier blackout que j'ai eu. J'ai dit, waouh, c'est quoi le truc? Et maintenant, ça continue et je fais les études, ça se passe plutôt bien parce que...
Je me permets de te couper parce que ce que tu dis là est important, ouais. Le fait que tu peux dire les mots. En fait, ceux de la technique, ouais. On les appelle entre guillemets les cancres, en fait. C'est ceux qui ne comprennent rien à l'école. Bon, quand tu comprends rien, va faire un truc manuel. Et j'ai l'impression que c'est un modèle copié-collé de la France, en fait. Parce que, entre guillemets, même si avec le nouveau président, ils essaient un petit peu de copier le modèle allemand petit à petit, mais c'est quelque chose qui est copié-collé à la France où la personne qui va faire quelque chose de pratique, de manuel, c'est un cancre, en fait. Et ouais, c'est tout le contraire ici en Allemagne où ce sont des valeurs, c'est quelque chose qu'on valorise ici, c'est quelque chose qui, même en termes de salaire, hein, ils sont plein là qui touchent même beaucoup plus que ceux qui sont dans la fonction publique, qui ont juste fait des trucs théoriques, ouais. Ok, donc je me suis permis de te couper bien pour sûr, préciser
bien,
un petit
bien,
peu
bien,
ça.
Ouais. Bien sûr, ça passe. Donc, c'est justement, tu l'as bien fait de mentionner, et c'est justement ça le problème qui me touche. Je me dis, mais attends, c'est quoi le délit finalement? Parce que je me retrouve à l'université avec les gens qui ont plutôt eu un baccalauréat C ou D, et je me trouve en train de les expliquer des trucs, parce que qu'est-ce qui se passe quand on vient ici avec un baccalauréat C ou D? On doit faire la technique. Pourquoi? Parce qu'on est motivé, parce qu'on a plus de possibilités d'entrer dans le monde professionnel en Allemagne, d'accéder à l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. C'est dans le domaine du privé. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas intéressant de travailler pour l'État, par exemple, quoi, parce qu'il y a beaucoup de privés, de structures privées qui font dans l'automobile, qui font dans la chimie technique, qui emploient les personnes en masse et qui ont même parfois les salaires plus attractifs que les autres types d'emplois, quoi. Donc, c'est dans cette mouvance-là que j'intègre dans le système scolaire, le système universitaire allemand. Et ça se passe plutôt bien pour moi. J'ai obtenu un bachelor 3 ans et demi après.
C'est quoi? Qu'est-ce que tu as choisi comme
Oui, électrotechnique. Électro, okay. Une formation technique. Donc, électrotechnique et technologie de l'information en français. Mm-hmm. Et dès que je la termine donc, avec le bachelor, bon, je sens que j'ai encore l'énergie, je peux encore le faire.
L'énergie est large, comme d'autres disent. Ouais.
J'entame le master parce que déjà quand j'y arrivais, je voulais faire un doctorat, mais j'entame le master quand même. Mais ce qui me marque le plus, où j'ai commencé, parce que j'ai créé la réussite en Allemagne en réalité, ça ne s'appelait pas encore réussite en Allemagne, ça s'appelait réussir ses études en Allemagne. Je l'ai créé en 2014. Mais d'abord, je faisais les textes.
Donc, 2014? Waouh, c'était. Et quand tu écrivais les textes, genre, tu avais un blog.
J'avais juste une page Facebook où j'écrivais. Donc, ah, okay. Le premier texte que j'ai publié, c'était quelque chose en fin 2014 sur la page Facebook.
Et tu t'en avances sur ton temps, là, franchement.
J'étais encore étudiant à l'époque. Donc, j'étais encore en bachelor carrément. Yes. Et je voyais, si tu connais Pforzheim, en fait, c'est on a la
filière. Pforzheim, on est dans le sud-est, dans la province du Baden-Württemberg,
ouais. Et là, tu as en face, en fait, l'école est structurée de façon, c'est localisé sur, c'est une route divise l'école, en fait. Donc, tu as le compartiment technique, le compartiment Wirtschaft, donc économie et droit. Économie. Mm-hmm. Et ce que j'ai remarqué, c'était que tous nos compatriotes, que ce soit camerounaises, ivoiriennes, togolaises, béninoises, après 3 semestres, elles disparaissaient. Après 3 semestres. Ça veut dire qu'on commence ensemble, le premier semestre, nous sommes nombreux, 3 semestres après.
Est-ce que tu entends par disparaître?
Ça veut dire qu'elles se faisaient se matriculer, elles avaient des soucis.
Ah, OK.
Donc, elles se faisaient plus voir, en fait. Mm-hmm. Et ça me marquait, ils disaient, mais c'est quoi le délire? Pourquoi chaque fois? Parce que je remarque ça au 3e semestre, et je remarque encore au 6e semestre, en 1er semestre master. Mais je me dis, mais c'est quoi le truc, finalement, avec ces étudiants qui tout le temps? Est-ce que c'est un problème technique? Parce que je pense pas que, en fait, personnellement, je pense pas que les études en Allemagne sont plus compliquées qu'au Cameroun. Je pense pas. Quand en fait, je ne pense pas. Je pense que le plus important, c'est qu'on ne maîtrise pas tout ce qui va avec derrière. Et mais, bon, on va peut-être aller un peu en détail à ce niveau-là. Mm-hmm. Maintenant, je me rends compte que, bon, c'est quoi le... Je commence à me poser la question. Je me dis, mais attends, pourquoi ils ont des difficultés à s'en sortir? Je commence à dénicher les petits problèmes que j'essaie d'apporter des réponses sous forme de texte. Par exemple, si vous commencez des études, faites attention à ceci, mais sous forme de texte. Et je me rends rapidement compte que les gens ne lisent pas. Parce que tu fais un texte, il n'y a pas de retour. On ne s'en lisait pas. Quoi.
c'est Philippe qui le dit souvent, non? Philippe d'Investir Pays, que si tu veux cacher un truc au noir, il faut écrire dans un bouquin. Et puis,
c'était malheureusement. Donc, je faisais des longs textes, j'ai commencé à faire des courts textes, mais ça n'avançait pas. En fait. Je me suis dit, bon, comment je vais vraiment apporter ce que je pense que c'est intéressant pour la communauté. C'est donc en 2000, c'est 4 ans après. Donc après, j'ai fait le projet, peut-être sur 2 ans. Après, je lâche parce que j'ai fait le master et puis j'étais un peu bousculé. Il fallait déménager pour mes thèses, différentes thèses, ainsi de suite. Après, maintenant, c'est en 2018, donc le 24 décembre 2018, que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Donc, c'est là que j'ai publié mes vidéos. Sur le fameux choix, est-ce qu'il faut, parce que c'est un point très important qu'il faudrait qu'on creuse aussi dans ce podcast.
Yes.
C'est très important sur le point de savoir, est-ce qu'il faudrait étudier à la Fachhochschule ou alors à l'université.
À l'université. Comment est-ce qu'on peut dire ça en français? Fachhochschule, école de formation.
Ah, les hautes écoles. Les hautes écoles en français.
Les hautes écoles, ok.
Donc, un peu comme on a le choix, le capital en Brésil. Donc, les universités appliquées, quoi. Universités pratiques appliquées. Et l'Allemagne est l'un des rares pays en Europe qui a ce système éducatif-là intégré.
Mm-hmm.
Et quand on vient du Cameroun ou des pays francophones, des pays notamment qui ont été colonisés par la France, on a le premier choc, c'est que on veut entrer dans une grande école. D'abord, parce qu'on sait qu'on a la culture du diplôme. Si je fais quand même une grande école, même si je suis cancre et que je sors, mon diplôme va payer. C'est le cas présentement, alors qu'on parle en France. Mais même les Français qui sont en France ont le problème quand ils arrivent en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est totalement différent. Donc, c'est le premier choc que nous avons en tant qu'étrangers ici en Allemagne. Et la question, c'est maintenant que qui va te donner donc la bonne réponse? Parce que tu vas voir quelqu'un qui a fait l'université, il va te dire, mon gars, fais l'université. Tu vas voir celui qui a fait la Fachhochschule dans la haute école, il va te dire, mon gars, fais la haute école. Comment tu te décides finalement? Et c'est ça, c'est la première vidéo, parce que moi, j'étais également victime de cette question-là. C'est pour ça que j'ai fait la première, toute première vidéo là-dessus. Donc, pour cadrer les gars, pour dire, pardon. Et à la base, il n'y a pas de mauvaise façon d'étudier, il n'y a pas de mauvais système à la base. Tout dépend de ce que tu veux atteindre avec tes études. Mmh. Jusqu'aujourd'hui, il y en a de nos grands frères qui sont malheureusement complexés. Je vois parfois dans des communautés, on te dit, moi j'ai fait l'université, toi tu es qui? Ils ont déjà de conflits, donc ils sont malheureusement les héritages coloniaux, je dirais ça comme ça, qui n'avancent pas en fait la personne réelle. Et il faudrait absolument faire attention à cela quand on est en Allemagne.
C'est vrai que tu as tout. On va mettre le lien de la vidéo en description. C'est vrai que tu as développé de long en large ce sujet-là. Mais s'il faut répondre à cette question de façon vraiment un peu sans trop tirer, quoi, les gens pourront aller consulter la vidéo. Qu'est-ce que toi tu dis aux gens? Parce que tu auras des personnes, des grands frères, ceux qui sont arrivés avant nous, qui vont dire ouais, si tu es à l'université, ben comment est-ce que tu bosses? La plupart généralement, ce sont pas les parents, peut-être ils t'aident jusqu'à arriver ici, mais après tu te démerdes, hein. Il y a plus de que mon père va m'envoyer. La plupart, il y en a, mais la majorité, tu dois te démerder, tu dois payer ton loyer, bouffer, tout ça, tu démerdes tout seul pour le faire, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un souci au niveau du système de ces deux entités, la Fachhochschule et l'université, où pour la Fachhochschule, tu as 3 mois où même si tu bosses pas pendant l'année, tu peux aller tu donnes le gaz, tu pars, tu bosses et tu as de quoi vivre pendant la période des études. Malheureusement, pour l'université, c'est en condition des études en continu, quoi. Tu n'as presque pas de vacances, quoi. Donc, il y a beaucoup de théories à ce sujet-là. Comment est-ce que tu peux, peut-être de façon brève, donner un début de réponse à ça et les autres pourront aller regarder la vidéo pour être plus informés?
Justement, oui, tout à fait, Guy Baton, c'est une bonne question. Il y a un bruit que le voisin fait là, c'est OK, tu m'écoutes très bien?
Yes, si tu entends très bien.
OK. Donc, c'est une très bonne question parce que moi, j'ai dit, vous pouvez peut-être faire ça en 2 mots. C'est que, clairement, si quelqu'un vient en Allemagne pour faire ses études et que l'intention, c'est de terminer ses études, aller travailler.
Mais quand tu vas à l'université, c'est quand même fou ce que tu dis. Si tu vas, tu t'inscris en tant qu'étudiant, c'est pour terminer. Normalement, c'est l'ambition de tout le monde de terminer, non?
Non, c'est pour ça que j'ajoute directement.
OK.
Je prends un exemple. Si, par exemple, tu viens en Allemagne et tu tâtonnes, ça veut dire que quoi? Tu viens en Allemagne, par exemple, alors on prend un contexte, premier contexte, tu viens en Allemagne, ton papa a une entreprise au Cameroun, par exemple, et il a peut-être besoin du soutien dans la gestion des personnes, ou peut-être dans le côté technique, par exemple, de son entreprise. Il t'envoie en Allemagne étudier. Et là, tu as intérêt peut-être à faire l'université pour 2 raisons. D'abord, avoir le côté, je vais dire ça comment, le côté spécifique, le côté peut-être approfondi de ce que tu vas faire. Mm-hmm. Et de 2, avoir des contacts avec des professeurs, peut-être qui ont d'autres contacts, avec d'autres professeurs, des universités peut-être étrangères, États-Unis, ainsi de suite. Et le troisième point que je pourrais encore ajouter, c'est que tu peux avoir aussi des contacts en ce qui concerne peut-être des points de recherche qui pourront peut-être avoir un impact dans ton entreprise plus tard, quand tu vas retourner après. Bon, dans la majeure des cas, on quitte le Cameroun ou alors dans notre pays pour venir en Allemagne parce qu'on a des difficultés familiales. Généralement, c'est pour des raisons beaucoup plus économiques. C'est-à-dire qu'on vient généralement d'un cas de pauvreté ou alors d'un cas de famille financièrement modeste, en fait. Généralement, c'est le cas. Ça veut dire que quoi? Quand on est dans ces circonstances-là, c'est que quoi? On arrive, on a généralement peut-être, si tu prends la moyenne, hein, la moyenne, on a 25 ans. Ça veut dire que quoi? À 25 ans, on a encore 5 ans devant nous pour atteindre la trentaine. Parce que moi, je pense qu'à partir de 30 ans, chacun de nous devrait au plus tard commencer déjà à gagner de l'argent. Ou ne serait-ce que avoir quand même les prévisions directes. Parce qu'après, quand tu as 30 ans, tu as encore 30 ans. Après, vraiment, tu n'es plus trop dans le dynamisme, tu n'as plus trop l'énergie. Et les études en Allemagne, ça donne beaucoup d'énergie.
Mais les Allemands, ils vont te dire que 30 ans, ça, c'est vraiment de la fainéantise. À 16 ans, lui, il gagne déjà son 1500 euros.
Je suis d'accord, parce que justement, il est dans un contexte où l'environnement est bon. Je prends les femmes, le cadre, on quitte de la 11, on bataille pour venir en Allemagne. Yes. Et on arrive vraiment dans les situations parfois compliquées, quoi. Mais non, si tu viens dans ce contexte-là, tu as par exemple 5 personnes de ta famille que tu dois les faire monter plus tard. C'est le contexte de beaucoup de personnes qui viennent en Allemagne. Ça veut dire que quoi? On t'envoie comme un cobaye, ta famille compte sur toi, quoi. Généralement, c'est ça. Donc, c'est la vérité. Généralement, c'est ça.
Je suis en train de rigoler, mais c'est clair ce que tu dis.
Généralement, c'est ça. Tu vois,
si tu prends 10 personnes, s'il y a au moins 8 personnes, c'est le même cas. Quoi.
Tout à fait. Il faut donc connaître, en fait, où est-ce que je viens, où sont mes provisions, qu'est-ce que je peux en tant que capacité. Dans ce genre de figure, où tu dis, bon, voilà, il me faut de l'argent, il me faut finir mes études rapidement et vraiment être directement entrer directement dans une entreprise. Après, peut-être mon bachelor, mon master. Moi, je dis clairement qu'il n'y a pas de débat à le faire à ce niveau-là. Tu seras plus rapide en allant à la FA ou alors en faisant simplement un dual studium. Ce que beaucoup négligent, je sais. Le dual studium, c'est ce qu'on appelle c'est les études.
L'alternance.
En alternance, en fait. Mm. Et parfois, c'est ça que les gens négligent. Et tu vas voir quelqu'un, peut-être, qui est dans ces conditions-là. Il arrive en Allemagne et comme il a vu que Pierre a choisi l'université, il va également à l'université. Après, maintenant, il se plaint pourquoi ses études prennent le temps. Le système universitaire et le système de la Fachhochschule des hautes écoles en Allemagne, c'est totalement différent. Tout dépend de ce que toi, tu veux atteindre. Aujourd'hui, c'est même possible de commencer avec les hautes écoles et à faire un doctorat à l'université, si tu veux. Tu peux le faire aujourd'hui.
Il y a un système d'équivalence devant. Et justement, pour revenir sur les dual studies, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'alternance en français, ils sont même pas au courant, ils se disent que c'est un truc qui est réservé. Tu vois, pareil comme pour Erasmus, ouais. Et oui, mon petit frère, lui, il a fait Erasmus, ils disent que non, c'est ça, c'est pas réservé pour les étrangers. En fait, ils n'ont même pas l'information, en fait. Ils n'ont même pas du tout l'information.
Justement, donc c'est seulement ça la question. Et il y a à partir de ce niveau-là, c'est ça, en fait, ce sont ces différents points-là qui vont guider les choix de choisir le type d'université, le type de système en fait, que tu veux intégrer. Yes. Aujourd'hui, on a des gens qui n'ont même pas étudié en Allemagne, mais qui sont des chefs, des personnes qui ont fait des universités. Je suis dans une entreprise où je travaille, et notre chef, il n'a pas fait les études. Il a fait ce qu'on appelle le Realschulabschluss. Donc, il a fait les études, si tu veux, ce sera peut-être une sorte de préparatoire, si tu veux. Mm-hmm. Et avec ça, il est allé se former dans une entreprise, et aujourd'hui, les chefs des personnes qui ont fait l'université, et ils ont obtenu un doctorat, en fait. C'est préjuratif, c'est bizarre même qu'à entendre. Mais c'est la réalité en Allemagne.
Mais ça s'explique, ça s'explique. Et quand tu regardes de façon opérationnelle, pratico-pratique, il y a une vraie maîtrise, il y a une vraie expertise parce que depuis ces années d'apprenant, d'apprenti, je pense comme ça qu'on dit en français, il est déjà sur le terrain en fait. Contrairement à quelqu'un qui sort directement d'études, même s'il a fait 7 ans, 10 ans, il connaît pas comment ça se passe de façon opérationnelle. Il a besoin d'acquérir de l'expérience. Lui, il a cette expérience d'apprenti et de personnes qui sont déjà dans la vie active, quoi. Même avant son diplôme, même avant son, comment on a, son diplôme, d'apprenti, quoi.
Ouais. Oui, d'apprenti, oui. Son diplôme de fin de formation.
De fin de formation, voilà, c'est ça.
Et maintenant, en revanche, si peut-être tu dis, bon, voilà, je veux atteindre l'excellence, c'était mon cas au départ, je voulais faire un doctorat, et ce n'est pas encore conclu, c'est pour ça que j'ai brossé également le master avec une autre qui me permet de faire le doctorat plus tard, si je décide. Si tu le fais un doctorat, par exemple, et que tu vois que, bon, voilà, tu as, côté financier, tu n'as pas de charges, on appelle ça des grosses charges au pays qui vont peut-être t'empêcher de vraiment suivre ton chemin sans avoir besoin de beaucoup de sous, tu peux directement, si ton but, c'est de faire un doctorat, je conseille directement de commencer à l'université. Parce que là, tu es déjà dans le domaine, ça va peut-être te menacer le premier et deuxième semestre, mais après, tu vas prendre le rythme.
Le système, quoi.
Et tu as plus de facilité à faire un doctorat directement, quoi. Même si tu as une mauvaise note en master. Or, si tu fais la FA, par exemple, pour venir faire le master à l'université, il va falloir quand même que tu aies une bonne note pour master, en fin d'études de master, en fait.
Yes, yes. C'est plus parce que généralement, c'est numerus clausus ou bien c'est. Du moins, s'il y a des minima, quoi. Non, c'est très, très sélectif.
Il faut avoir la mention au moins bien en master, au moins minimum bien. Sinon, tu ne peux pas accéder. Maintenant, si tu as fait l'université et que tu as l'université, si tu as même suffisant ou un truc comme ça, avec les tests que tu as eu à faire, avec le comportement que ton professeur te connaît déjà, tu peux également le faire si tu as un dry, quoi. Donc, ce qu'on appelle ici. Avec Buffredi, donc ce qu'on dit peut-être assez bien, quoi.
Yes. Ok. Donc, le nom de la chaîne a changé, comme tu disais tantôt. Ouais. C'est quoi? Est-ce que tu peux un petit peu préciser? C'est quoi la zone de bascule? C'est à quel moment est-ce que tu décides de changer le nom de la chaîne? Parce que il y a une grosse différence. Là, quand tu dis réussi en Allemagne, tu t'adresses plus forcément aux étudiants. Vraiment, tu parles, tu t'adresses à un plus grand nombre de personnes et une diversité de profils. C'est quoi la zone de bascule?
Ouais, justement, ça, c'est une très bonne question également. En fait, moi, j'ai créé la chaîne Réussir ses études en Allemagne en réalité pour, en fait, sur YouTube. Hein. J'ai commencé sur YouTube en réalité parce que j'étais motivé par le fait d'apporter, je voulais créer une chaîne business, en fait. Mm-hmm. Business beaucoup plus en Allemagne pour déjà éclairer sur les opportunités de business qu'on a, nous, étrangers, et aussi ce que moi j'appelle, en parenthèse, hein, pour, en fait, quand je regarde les pays d'Europe, moi je pense que j'étais aux États-Unis également, j'ai vu comment ça fonctionne là-bas. En fait, je pense que l'Allemagne, elle, en fait, c'est comme si on est sur de l'or ici, quoi. Je vais t'expliquer pourquoi je le dis.
Yes, nous, les je suis impatient.
De toute façon, on a beaucoup d'ouverture. Je me suis dit, bon, voilà, je vais créer, comme le domaine des études, je maîtrise déjà bien, je vais faire un an, je vais tourner les vidéos sur les études. L'année d'après, je vais plus faire peut-être ou trop une vidéo peut-être par semaine sur les études. Je vais maintenant faire la chaîne que je voulais faire depuis, la chaîne business. Et maintenant, j'ai eu des conseils des proches, notamment de Philippe d'Investir au Pays. Donc, j'avais pris une formation sur YouTube. Parce que j'avais remarqué, en fait, que la chaîne YouTube ne bougeait plus. Il me fallait peut-être en faire les canaux, peut-être comment présenter bien la thématique, tout ça. Et pendant mon autre échange, en fait, il m'a dit, bon, voilà, si tu veux créer une autre chaîne, tu as une audience, tu as une bonne audience aujourd'hui. Et l'audience que tu as aujourd'hui, sont certes des étudiants, mais ils seront travailler demain, quoi. Et si tu veux faire une autre chaîne à côté, il va falloir retravailler encore l'audience.
De zéro, quoi. Bosser l'algorithme,
essaye d'intégrer dans ton projet actuel. Donc, c'est pour ça que j'ai donc dit, bon, voilà, je vais changer simplement le nom, je vais enlever études, je vais donc réussir en Allemagne, où je vais m'aborder, je vais donc appliquer sur la thématique des études toujours, mais maintenant, elle commencer à impliquer le côté business, que j'ai commencé aujourd'hui, ce matin, à publier une vidéo sur l'immobilier, je vais continuer dans ce sens.
Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant comme approche. C'est vrai qu'une autre personne se serait dit, ben, j'attaque direct. Pourquoi ne pas attaquer directement, aller dans le vif du sujet? Parce qu'il s'est dit que ben, c'est ça mon objectif. Mais toi, tu as plus une stratégie d'éducation et, de grandir même avec eux. Parce que tout ce que tu as potentiellement aidé pendant les années d'études, et lorsqu'ils voudront, même s'ils vont pas forcément faire du business, mais ils veulent faire peut-être même des acquisitions de propriétés, qu'ils voient que ben, toi, tu fais le truc et tout, moi, je t'ai déjà fait confiance sur tel sujet, ben, je t'ai fait confiance sur l'autre sujet pour m'accompagner de façon plus safe, quoi. Donc, ouais, ça fait sens, quoi, une stratégie sur le long terme.
J'ai ajouté maintenant, dans un futur proche, par exemple, je vais faire business et maintenant, on a commencé déjà le travail. J'ai commencé également à en entremettre un tout petit peu, notamment avec Constantin Forum, qui est beaucoup plus sur la pré-étude. C'est aussi un truc que je vais intégrer, mais je pense qu'il s'y connaît déjà mieux. Et l'idée, justement, c'est de fédérer les forces comme ça. Parce que moi, je vois, j'aime bien la phrase, c'est que moi, j'aime toujours dire à ceux que je rencontre, notamment les étudiants ou ceux que je rencontre parfois dans la rue, je dis, bon, voilà, nous sommes. Généralement, on se plaint dans nos pays africains où la politique est mauvaise, tout n'est pas le cadre, mais pas là, on veut investir, mais l'État dérange. On est d'accord. Mais nous sommes dans un pays, c'est la première puissance économique d'Europe. Yes. Il n'y a pas d'excuse à se faire. C'est-à-dire que l'environnement est propice. Il faut seulement savoir, en fait, quel est le cadre légal dans lequel on peut se mouvoir. Parce qu'il n'y a plus d'excuse à se faire, en fait. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui arrive en Allemagne, avec toutes ces opportunités, le cadre légal est là. Il n'y a pas de... C'est un pays plus ou moins institutionnel, stable, en fait. Donc, il n'y a pas d'excuse à se dire, bon, voilà, c'est parce que c'était... En fait, je ne vois pas d'excuse à se faire. Donc, il faut seulement connaître, en fait, qu'il y a, en fait, informer sur ce qu'il y a comme potentialité. C'est pour ça que j'ai commencé par les études, parce que les études, c'est le moyen par excellence, je veux dire, d'intégrer le système allemand le plus facilement, rapidement possible, en fait. C'est le moyen par excellence, parce que quand on termine les études, on tombe directement, généralement, au-dessus de la moyenne sociale, généralement. Tu vois? Et on n'a pas besoin de 5 ans, 10 ans, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Si tu mets bien les choses en place, je veux faire les vidéos là-dessus, tu mets bien les choses en place, en 2, 3 ans, tu perds un niveau où tu n'avais peut-être jamais imaginé dans ta vie.
Yes. Ouais. Yes. Mais l'idée, c'est justement de maximiser en fait sur cette avance-là, sur ce levier-là pour aller chercher encore, d'autres niveaux de vie, notamment les segments. Tu vas nous parler de ça, que tu comptes implémenter par rapport à ta chaîne. Tu as déjà parlé de la vidéo, par exemple, sur l'immobilier que tu as lancé ce matin. Et hormis ça, tu as aussi évoqué notamment super séducteur de recruteurs, justement, qui accompagne justement ces jeunes-là, notamment ceux que tu as commencé, ceux qui t'ont suivi dans tes débuts, ils ont eu leur diplôme et puis, ben, j'ai mon diplôme, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je trouve un boulot? Ouais, donc cette synergie-là va forcément se déployer là avec ce partenariat avec Super Solutaire des Recruteurs. J'aimerais peut-être que tu peux déjà nous signifier aussi les autres segments sur lesquels tu comptes axer la chaîne, parce que quand tu dis business, j'imagine que immobilier, immobilier peut-être même après, parce que si ce jeune-là qui a eu son diplôme réussit à trouver un boulot, il est finançable par des banques, ben, il peut passer à la phase de l'immobilier.
Bien sûr.
Et c'est quoi la suite? J'imagine que t'avais déjà forcément mijoté ça dans un coin de ta tête, d'accord. Est-ce que tu peux un peu nous parler des autres segments sur lesquels
justement, bon, pour disons que pour le futur proche sur la chaîne, on va maintenant on a le côté des études devient plus stable. J'ai un bon feedback qui arrive et les ceux qui me suivent depuis un an, ils sont beaucoup plus, je veux dire, mieux aguerris parce que l'idée en fait c'est qu'ils soient meilleurs que nous autres qui sont venus.
Yes.
Qu'ils soient meilleurs et qu'ils ont la bonne information. Tu parlais du fait du rapatriement. Ça allait en fait dans tous les sens, mais il fallait en fait apporter une approche parce qu'on aime trop taxer tout ce qu'on trouve ici de racisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme en Allemagne, mais il ne fallait pas qu'à la moindre chose, on colle au racisme. En fait. Donc, parce que le système est dû pour tout le monde, même pour les Allemands. J'ai les Allemands qui n'arrivent pas à s'en sortir en Allemagne chez eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il faut quitter le pays. Donc, c'est un système qui est dur et c'est aussi pour ça que le système avance. Maintenant, sur les perspectives de la chaîne réussie en Allemagne, moi, je veux, en fait, que dans tous les secteurs en Allemagne, je dis bien dans tous les secteurs, qu'on soit présent. En fait, comme la communauté turque, si je prends l'exemple de la communauté turque, ils sont présents dans tous les secteurs.
Moi, j'aime bien donner, je me permets de couper, j'aime bien donner des références. Quand on parle des Turcs ici, c'est un petit peu comme les Maliens en France, voilà. Pour que les gens essaient un petit peu de visualiser. Donc, c'est pas genre, ils sont là même sur 3-4 générations. Et ils ont ratissé plein de sémas. Ou bien peut-être les Libanais en Côte d'Ivoire, ou bien je sais pas trop.
Même les Libanais au Cameroun.
Ouais, ou bien les Chinois au Cameroun.
Au Cameroun, ouais.
Si on pousse les choses, si on surfe un peu sur l'actualité, quoi. Même les Chinois dans plein de pays d'Afrique.
C'est justement ça le cas, en fait, parce qu'il faudrait qu'on soit présent. Et quand on dit présent, c'est dans tous les sens. Ça veut dire que quoi? Est-ce qu'on est dans l'événementiel? Parce que la Russie en Allemagne va aussi peut-être faire dans ça plus tard. Mais parce qu'on peut également se faire dans l'événementiel. On peut faire dans les ventes en ligne, on peut faire dans les boutiques.
Bon, pour l'événementiel, pour l'instant, c'est pas trop. Non, je rappelle pour les gens qui écoutent ça plus tard, quoi. Nous sommes en pleine crise de COVID-19 et tout le monde est, même si on va commencer à sortir petit à petit, les petits magasins vont ouvrir, je crois, jusqu'à 100. Enfin, ça, c'est pour l'Allemagne, hein. En France, je crois qu'ils sont encore confinés jusqu'en mai, jusqu'à début mai, la moitié de mai. Donc, c'est juste pour préciser, pour ceux qui vont écouter plus tard, ça reste quelque chose de très intéressant, pas pour l'instant, parce que tout est fermé, mais ça reste très, très intéressant.
Bien sûr. Donc, il y a les secteurs-là, justement, comme tu disais, c'est en fait de la présence dans tous les secteurs d'activité, en fait. Il y en a, Dieu seul sait combien de secteurs d'activité on a en Allemagne. Il y a, par exemple, il y a peut-être comme un spot comme ça, hein, il y a, par exemple, le fait que Dieu seul sait comment des Camerounais, ils ont de soucis. Ils savent où mettre les enfants, quoi. Une fois qu'ils ont leurs enfants, ils se plaignent généralement qu'ils n'ont plus de vie. Et généralement, ça pousse à ce que les couples, parfois, se déchirent. Hein. Ça veut dire que...
Si kindergarten.
Une solution, non, une solution.
C'est quoi, la crèche.
Non pas seulement ça, mais la question, c'est comment aussi peut-être un couple va aller spontanément en boîte de nuit qui s'occupe des enfants. Ce genre de trucs, en fait, tu vois. Donc, c'est justement intégré pour augmenter finalement la valeur.
On fait pas l'apologie de la boîte de nuit, hein, mais why not?
Oui, par exemple,
on a bien besoin d'aller.
Un truc, peut-être pour simplement s'éclipser en intimité. Ce sont des trucs, en fait, que j'y pense et je pense que ce sera également un facteur.
Mais est-ce que tu peux un petit peu montrer, parce que c'est un bon exemple, mine de rien, je suis en train de rigoler, mais c'est un problème dur, c'est un problème profond. C'est hyper cher, ces trucs. Pour ceux qui ont des enfants qui vivent en Allemagne, ils pourront témoigner ou en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast. Ça coûte hyper cher, en fait, de mettre son enfant dans une crèche pour si je prends le cas de la communauté, notre communauté, même pas pour tout le monde, même pour les Allemands, c'est hyper cher. Et c'est clair. Et en plus, il y a pas, c'est comme le problème aussi avec les seniors et tout, et les EHPAD, tout ça. Il y en a pas assez, en fait. Donc c'est là, il faut à chaque fois s'inscrire, attendre peut-être des mois et des mois avant d'être validé, d'avoir une place. C'est clairement une niche, quoi. C'est clairement un truc qu'on pourrait creuser. Et peut-être même faire ça en communauté, en fait, tu vois.
Bien sûr, faire ça, oui, justement, et peut-être respecter le cadre.
En respectant, bien sûr, le cadre de la loi, mais en communauté, c'est plus pour pousser, et aider les gens.
Tout à fait, non, je pense à un truc qu'on peut intégrer, et tu parlais du secteur cher, en fait, parce que c'est un bon point que tu dis. J'aime bien ce mot, en fait, c'est cher, à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que il faudrait que les gens qui nous écoutent retiennent que nous sommes dans un pays, en Allemagne, très dynamique, et chaque année, le niveau de vie augmente. La question qu'on devrait nous-mêmes se poser, c'est que comment je fais pour me positionner finalement dans ce système? Parce qu'en Allemagne, en fait, même si tu ne fais rien, tu vas dépenser. Ça veut dire que même si tu arrêtes, tu décides de ne rien faire. Ça veut dire que tu ne sors pas,
Tu peux au moins ton assurance vie, tu peux au moins...
donc la question, en fait, à se poser, c'est comment je fais pour gagner l'argent? Parce que perdre, c'est tout, de toute façon, je vais perdre l'argent. La question, c'est comment je fais pour gagner? Peut-être comment je fais pour gagner davantage? Certains vont te dire, bon, voilà, j'ai un bon boulot, c'est stable, ainsi de suite. C'est vrai. Mais je pense que dans un pays comme celui-ci, on devrait, en fait, le plus pauvre, ou peut-être celui-là qui dit, bon, voilà, je n'ai pas de temps, vraiment, j'ai toutes choses à faire, ça ne m'intéresse pas, finalement, comment je trouve l'argent? Il devait avoir minimum deux sources de revenus à côté de son salaire. Minimum, ça dit qu'il ne fait rien, quoi. Il n'a pas assez de temps. Parce que le pays propose cela. Tu as un pays où tu fais un enfant, tu dis, bon, voilà, tu peux prendre carrément un an et on te paye 60% de ton salaire. Mais attends, regarde un peu tout toi. C'est un luxe. Mm-hmm. Et si je prends un exemple, c'est quelqu'un qui fait...
J'ai envie de préciser un truc par rapport à ça, parce qu'il y a plein de personnes qui profitent aussi du système. Je ne sais pas, pour faire des jugements de valeur, chacun mm-hmm. fait ce qu'il bien veut. Bien sûr. Mais c'est pour recadrer ce que tu dis, que si mm-hmm. tu peux, pendant un an, toucher 60% du salaire que tu avais avant, ça te donne non seulement un minimum de vie pendant un certain temps pour bosser pendant 12 mois sur peut-être des projets dédiés, des projets qui te tiennent à cœur, quoi. Je pense que c'est plus dans ce cas, dans ce sens-là que tu montres que c'est une opportunité. C'est pas plus pour s'asseoir 12 mois à la maison.
Je suis d'accord. Si quelqu'un veut se la couler 12, ok, s'il a les moyens de sa politique, il n'y a pas de problème.
Non, libre à lui, moi je juge pas. Je dis juste que c'est dans ce sens-là, quoi. C'est pour montrer, en fait, l'opportunité que cela représente, quoi.
Bien sûr. Et je connais beaucoup qui en profitent, bizarrement, notamment, quoi, qui profitent, je veux dire, ils planifient la création de famille par rapport à ça, par rapport à profiter de ce temps-là, en fait. Parce que l'Allemagne, c'est un pays, ça va toujours aller dans le sens-là. On sera toujours, le niveau de vie sera toujours plus élevé, toujours un peu plus cher, parce qu'il y a le taux d'inflation, il y a tous les facteurs, en fait, qui ne vont pas détailler ici, mais qui ajustent là. La question, c'est que comment nous, en tant qu'Africains, comme d'autres communautés, c'est pas un truc qu'on invente, en fait. Comment on va se positionner?
En tant que communauté, parce que quand tu dis Africain, en tant que communauté, comme c'est pareil, c'est ce que les Turcs vont faire, c'est ce que les Polonais vont faire.
Même dans la politique, pourquoi pas? Mais maintenant, pourquoi en fait on est, s'il faut prendre une décision, par exemple, cruciale, ou une décision peut-être qui est importante, pour qu'on puisse intégrer la communauté aussi. On ne va pas intégrer la communauté parce qu'on bavarde sur YouTube, que telle personne doit quitter le pouvoir. On ne va jamais vous intégrer comme ça, peut-être parce qu'il y a peut-être la guerre au Nord-Ouest, on fait des marches. Non, ça ne va pas suffire. C'est une approche, c'est certes, mais ça ne va pas suffire. À côté de ça, il faudrait qu'on crée de la richesse, où on se trouve. Je veux dire que tu vas voir les gens...
On ne peut pas faire la guerre sans argent, de toutes les façons. Je veux dire, même pour les plus extrémistes, quoi. Il faut bien de l'argent.
Si, par exemple, vous dites à quelqu'un que, bon, voilà, il faut peut-être investir dans ton pays, l'Afrique, il va te dire directement que je n'ai pas le temps, on va me frapper au pays. OK, où est-ce que tu te trouves là? Où tu as tout le contrôle? Est-ce que tu le fais?
C'est une très bonne question.
C'est ça la question. Parce qu'il y a des gens dans les zones de guerre, notamment si on prend Bagdad, on parle Irak, il y a des gens là-bas qui vivent bien, à côté de la guerre. Ça veut dire, en fait, c'est un problème dans le cerveau, en fait. N'importe où tu vis, en réalité, si tu comprends comment le système fonctionne, tu peux t'enrichir, en fait. C'est dans le sens-là que je veux apporter dans un futur proche ce système de thématique dans la communauté, avec preuve à l'appui. Je vais prendre un exemple. Quand j'étais étudiant, je faisais, à côté de mes études, notamment j'avais mes bourses, et quand j'avais mes bourses que je dénichais comme ça, il y a ce qu'on appelait les cash sharing, les private cash sharing. J'ai fait une vidéo là-dessus également.
Ouais, je crois que j'ai vu la vidéo là où tu
pouvais simplement, ouais,
même si tu n'as même pas le permis, voilà, tu peux, ouais, c'était très très, je vais mettre le lien dans la description. C'est une très bonne vidéo pour les étudiants.
Voilà, c'est ce qui s'est passé justement. C'est qu'on a beaucoup de d'étudiants qui aiment bien avoir une voiture, mais qu'est-ce qui se passe quand tu as une voiture en Allemagne? Tu payes les impôts et tu payes l'assurance, même si tu conduis pas la voiture. C'est-à-dire que même si tu gardes la voiture, tu payes quand même ces coûts-là. Alors, qu'est-ce que ça te coûte dedans pendant ce temps-là? Parce que j'ai eu la chance, quand je faisais ma thèse, j'avais une voiture, je devais avoir la voiture parce que je devais tout le temps voyager pour aller visiter ma copine. Et du coup, j'habitais à côté de l'entreprise et je louais dans mon véhicule du lundi à vendredi. J'avais besoin du véhicule seulement le week-end. Et sans te mentir, je faisais les 600 euros par mois avec ça.
En automatique, comme on aime dire dans le game. Hein.
Et en tant qu'étudiant, tout ça s'est passé sur une application téléphone. Mm-hmm. C'était pas les années, c'était les années 2014.
C'est une très bonne vidéo. Tu as pris un autre exemple aussi avec Amazon, l'autre filiale, voilà, d'Amazon, là, comment ça s'appelle?
Et l'autre, Amazon Flex. Ouais. Ouais. Où tu as peut-être ton petit vélo, tu peux simplement, si tu as un peu le temps, tu as peut-être tes 2 heures, tu as peut-être des temps de pause quand tu as fini d'étudier, tu prends ton vélo, tu peux prendre le parquet, tu livres à tes voisins, tu te fais du cash. Parce qu'il faudrait qu'on saute, en fait, dans cet esprit C'est clair qu'il y a beaucoup de jobs en Allemagne, mais il faudrait qu'on saute également dans l'esprit qu'il faut forcément que quelqu'un crée et soit son employé, en fait. Tu peux également créer ton affaire et finalement, c'est toi qui es ton propre chef. C'est possible. Donc, je dis en fait que ce que je fais comprendre, c'est que, quoi, Guy Balto, c'est qu'en fait, je veux qu'on comprenne qu'on est dans un pays d'opportunités et riche également. C'est la première puissance. On est dans un environnement de puissance, en fait. Ouais. C'est la première puissance économique européenne. Il faudrait qu'on soit conscient de cela.
Parce que tu as dit là, tu n'as pas dit que c'est quand tu as eu ton diplôme, tu as eu ton. Et même en étant étudiant, quoi, il y a tellement d'opportunités. J'ai discuté de ça aussi. Le podcast que j'ai posté cette semaine avec Redo Gukeng, c'est justement l'associé de Patrick Timani sur B Group. Mais si tu écoutes tout ce que lui il a fait, alors qu'il n'était qu'étudiant, il était par exemple le leader d'une team dans le MLM qui avait dépensé plus de 3 millions d'euros, quoi, tu vois. Pourtant, il n'était qu'étudiant, tu vois. C'est fait. Peut-être que tu as dû entendre parler de ça. Kairos, c'est un truc.
Oui, de Kairos, j'ai entendu parler de Kairos.
Tu vois, c'était. Imagine tout ça. Et même pour ceux qui disent que, ouais, nous, les étudiants, on a un permis de travail. C'est quoi, c'est à temps partiel et tout. Comment est-ce qu'on fait? Mais il y a tellement des stratégies. Si tu creuses, on en parle un petit peu. J'ai donné un petit peu quelques éléments là, qu'il y a des moyens, des stratégies comme ça, légales, de créer des entreprises tierces où toi, tu viens bosser comme ça à temps partiel. Mais dans un autre pays, c'est toi qui tu bosses, tu te mets en tant qu'employé de cette entreprise-là. Si tu cherches, tu vas trouver. Il y a tellement de possibilités. Tu vois, tu te fais facturer comme un prestataire de cette entreprise-là. Pourtant, l'entreprise t'appartient, tu vois. Et c'est légal et ça se fait. Et même les grosses entreprises, toutes ces grosses entreprises, c'est ce qu'elles font. Que ce soit Facebook qui paye sa fiscalité en Irlande, là où la fiscalité est quasi à zéro, Pourquoi réfléchir trop si les gros font ça? Pourquoi tu vas aller chercher? Pourquoi tu veux réinventer là-haut?
Tout à fait, justement. Tout à fait, quoi. Donc, c'est clair. Non, je connais, j'ai entendu quand même parler de Kairos, ça bougeait également. Mm-hmm. À une époque là en Allemagne.
Ouais. Donc, je parle même pas du business modèle en lui-même, mais je parle de cette curiosité. C'est le fait d'être vigilant, il y a un truc qui passe, tu t'en fous. Tu regardes ce qu'il y a autour de toi et puis s'il y a une opportunité, tu en profites, quoi. Bon, franchement, ta chaîne porte très bien son nom et les segments sur lesquels qui vont arriver après, je crois que ça sera de plus en plus intéressant pour tous les curieux, bien sûr, pour ceux qui sont curieux. Donc, pour venir un petit peu sur ce qui concernait, je vais légèrement revenir en arrière par rapport à réussir en Allemagne qui s'adressait à ces étudiants-là. Est-ce qu'il y avait une approche quand même un petit peu business? Est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de financier que tu as pu créer pendant ces un an là?
Donc, pendant ces un an, j'ai pas créé quelque chose de financier parce que l'objectif était d'atteindre d'avoir la base symbolique des 1000 abonnés.
Des 1000 abonnés! Les 1000 premiers fans.
Je l'ai atteint, c'était exactement le 31 décembre 2019. Donc, exactement un an après. J'étais content, j'étais super content que j'ai.
J'imagine bien.
Cette base symbolique. Maintenant, j'ai passé à la deuxième étape dans cette année. Donc, je pense que j'ai fait un petit spot là-dessus. Je disais, cette année, on a refilé, quoi.
On accélère.
Année, soit toujours un truc comme ça. On a
commencé. Le niveau supérieur.
Et on est passé de janvier à maintenant, on a dépassé la barre des 5000 déjà, de 5000 abonnés.
Mais après, ça devient exponentiel, hein, ça va. Non, bien sûr, mais c'est. Ça bouge, oui. Il faut bien que commencer quelque part.
Il y a quand même une communauté, il y a quand même une présence sur les réseaux. Mm-hmm. Bon, maintenant, j'ai déjà mis sur pièce, par exemple, des offres, notamment sur comment. Enfin, des étudiants qui ont besoin d'orientation. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, même des gens qui sont venus en tant que. Autant m'arriver là-dessus.
En tant que.
Ouais. C'est le cas de regroupement familial, qui ont un bon background, surtout nos jeunes sœurs. Mais une fois qu'elle arrive ici, elle entre dans le circuit du mariage ou de familial, et puis bon voilà, son bac, elle met au tiroir, après c'est hospital long, après on ne sait plus comment ça finit finalement. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. On peut faire les études par correspondance. J'insiste sur les études parce que c'est le moyen, par excellence en fait, d'intégrer le social. Et je vois comment les femmes qui ont terminé les études ici, peu importe le type d'études que vous avez eu à faire, je vois comment c'est facile d'intégrer le système. Parce qu'il faut pas, il faut toujours regarder dans le long terme. Quelqu'un qui a étudié, en fait, n'aura pas les mêmes horaires de travail que quelqu'un qui a fait les formations.
Yes.
C'est clair que ce n'est pas toutes les formations, mais il faut intégrer ça. Et parce que je sais que nos jeunes seront la capacité. Et bien, des pays comme le Cameroun, comme du Togo, comme
un système éducatif assez qui est vraiment dans les normes, quoi. Et pour ça, il y a plein d'exemples. Si tu prends le cas, par exemple, du Maroc, de la Tunisie, moi, je me souviens, ils étaient obligés de passer par, je sais pas, l'équivalent de ça en français, du student college. Donc, ils font un petit peu, les prépas, voilà, c'est ce que les gens font souvent pour ceux qui veulent intégrer les hautes écoles françaises, là. Ils font un an, deux ans de prépa avant d'intégrer ces écoles. Alors que nous, on arrive, on vient juste de faire la langue. Dès que tu maîtrises la langue, ton diplôme, il est reconnu, tu passes aux choses sérieuses, quoi, à l'université.
Tout à fait. Alors que nous, c'était directement direct qu'on a. Ça veut dire que pour cette question, peut-être dans l'accompagnement que je propose déjà sur la chaîne, c'est justement l'orientation des étudiants, peut-être ceux-là qui viennent, qu'est-ce que je peux faire, ainsi de suite. Donc, j'ai des petits liens que j'ai jamais
mis. Yes.
Pour ceux qui veulent peut-être qu'on les oriente, pour ceux peut-être qui veulent, par exemple, qu'on les aide pour obtenir un contrat de formation. Donc, j'ai enregistré la société comme client on tenait maintenant comme petite entreprise. Où je veux donc me positionner également comme indépendant entre les entreprises.
C'est toi qui es Antel Untanema, enfin, comment on dit ça, auto-entrepreneur, ou alors tu as créé une entreprise, enfin, ça porte un nom.
Non, ça porte mon nom parce que c'est un nom propre. Donc, c'est ce qu'on appelle
parce que justement, parce que c'est les lois ne te permettent pas de. Il faut que tu upgrades pour pouvoir donner un nom, si je ne m'abuse.
Oui, bon, tu peux. En fait, en Kleingewerbe, Tu as limité ce qu'un chiffre d'affaires de 17 900 euros, je pense, bien, à l'année.
Ça a un petit peu augmenté. Je crois qu'on est passé à 25 000.
Et je pense qu'ils ont augmenté peut-être, oui. Donc, mais c'est, bon, en fait, ce petit cadre-là me suffit d'abord parce qu'il ne faut pas oublier que je suis encore, il y a encore la casquette de salarié.
Ouais, vu que tu es salarié, ouais, sinon tu vas te retrouver à la fin, tu payes tout à l'État.
Voilà. Il faut voir, donc. Il faut voir, en fait. Donc, maintenant, on va voir par rapport aux orientations.
Même si je pense que c'est possible de bosser un peu plus que ça et d'optimiser ça, quoi. Il y a plein de charges, il y a plein de trucs que tu peux faire rentrer comme charges, ce qui t'a permis, par exemple, peut-être si tu fais monter tes vidéos par des prestataires.
Bien sûr.
Il y a toujours bien sûr, moyen fait, d'optimiser, de vivre. Si je prends mon autre associé, Florian, mais je dévoile pas tous les offres, mais pratiquement toute sa vie est supportée par ses entreprises, tu vois. Il y a très peu de choses qui payent en nom propre, quoi. Pourtant, c'est ça un truc qu'ils utilisent tous les jours. Ouais.
Non, je suis d'accord. Donc, c'est justement le cadre là. Donc, pour un début, j'ai dit, bon, voilà, je fais parce que tu sais qu'en Allemagne, c'est très important ce que je dis ici. En Allemagne, en fait, la loi dit que si tu as l'intention, parce que quand tu enregistres l'entreprise en Kleingewerbe, en fait, tu ne paies pas forcément les impôts, hein, jusqu'à la barre de 25 000 que tu viens de mentionner. Mais c'est très important, c'est que la loi est claire là-dessus. La loi dit que.
Si non, tu payes pas d'impôts. Je crois que c'est juste comme 10% en fait de ce que tu fais comme plus, quoi. Tu payes quand même des impôts, mais très moindres. Ça veut dire ce que les gens font souvent. Oui, ce que les gens font souvent, ils s'arrangent à ce que ce qui est entré, ce qui est sorti reste. Enfin, ça s'annule, quoi. C'est comme ça que c'est dans ce cadre-là que tu payes pas d'impôts.
Non, mais ça dépend. Attends. Si tu es employé, n'est-ce pas? Si tu es quelqu'un que tu es employé. Ça veut dire que tu fais ton entreprise en temps partiel. Donc, par exemple, mon cas, réussi en Allemagne, c'est en temps partiel. Et j'ai donc un full-time job, donc un boulot à temps plein, où on me fait les impôts sur le revenu.
Oui.
Maintenant, l'entreprise qui est donc Kleingewerbe à côté, à partir du moment où je bouge un chiffre d'affaires de 25 000 euros que tu as dit, je ne paye pas les impôts.
Mais non, 25 000, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est sur ce que tu fais comme bénéfice. Oui, c'est sur ça que tu pourrais potentiellement payer des impôts. Ça, je dis que dès que tu restes dans le cadre où le chiffre d'affaires et le bénéfice, enfin, que tout ça, quelque part, ça, avec les charges, en fait, quand tu fais bien, ça s'annule et c'est dans ce cas-là que tu ne payes pas d'impôts. Mais sinon, tu payes quand même un petit peu d'impôts.
Je suis d'accord. Même si ça ne s'annule pas, en fait. Même si tu as un certain gain, il y a une limite de gain que tu peux dépasser, que tu peux ne pas dépasser. Et quand tu dépasses, tu payes les impôts. Si tu ne dépasses, tu ne payes pas les impôts.
Yes.
Il y a une limite. Également sur le gain, en fait. Ça veut dire que maintenant, ça dépend. C'est clair que quand tu fais une entreprise, c'est pour évoluer, quoi. Si ça évolue, c'est clair que tu vas...
C'est même positif. L'objectif, c'est de grandir. C'est normal de payer les impôts. Donc, il ne faut pas qu'on parle. Les gens croient que on est là, on fuit les impôts. Tout. On utilise le système tel qu'il est. Et le plus important, c'est de faire les choses dans les règles, quoi. De pas tomber dans ce que d'autres grands frères, d'autres générations ont fait. Et puis, on va croire que c'est tout le monde qui est comme ça, quoi. Donc, il y a des règles, il y a un système. Tu demandes c'est quoi les règles du jeu et tu te conformes aux règles du jeu, tout simplement. C'est
tout ça. À fait. Donc, justement, toute personne qui arrive en Allemagne, il veut un accompagnement, une orientation. Est-ce que je vais choisir le choix de filière et ainsi de suite? Donc, je propose, il y a ce service-là. Et j'ai déjà sur l'immobilier également où j'ai commencé également, où je suis vraiment, on va dire, en Allemagne, quand même, j'ai une connaissance quand même déjà très poussée, comment ça fonctionne. Moi également, j'ai investi en hôtel.
Avant que je voulais qu'on aborde aussi le point de l'immobilier, mais avant ça, pour clôturer justement sur l'orientation, là, je sais que tu, dans tes vidéos, tu en parles même souvent aussi des autres segments d'immigration, quoi. Au-delà de l'étudiant, il y a des comment on dit ça en français? C'est au pair, c'est en français.
Les gens au pair, qui... oui, au pair. Ouais. Ouais. Non, oui.
Les au pair ou alors ceux qui viennent en tant que qui viennent faire housebuilding, qui viennent faire justement les formations dont tu parlais, mais qui font même, qui font même, des même demandes depuis
même volontariat, ouais. En fait,
donc, volontariat, oui, justement, est-ce que ça rentre aussi dans
ça rentre aussi. J'ai proposé cela. Donc le volontariat, c'est également dans le cadre de formation, parce que généralement ceux qui viennent faire la formation, c'est la même, c'est plus ou moins la même procédure en fait que le volontariat. La seule différence, c'est que le volontariat est limité sur un an. Mm-hmm. Et après un an, il faut donc se décider ce qu'on veut faire.
Bon, j'imagine qu'il y a une stratégie derrière. Peut-être c'est justement ça que tu vends en fait. C'est comment en fait se reconvertir ou changer de statut de volontariat. Parce que sinon, tu es supposé rentrer si tu ne peux pas justifier de la période que tu...
Tout à fait, tu es en train de rentrer. Et la question des licences, ça veut dire que quoi? J'ai peut-être quelqu'un qui vient te dire, bon voilà, j'ai tel âge. Ce qu'il faudrait que nos jeunes comprennent, c'est que par rapport... Quelqu'un, par exemple, qui venait en Allemagne, vient vers moi, me demande de l'orienter. S'il a 25 ans, c'est différent. L'orientation sera différente que quelqu'un qui a 30 ans ou quelqu'un qui a 20 ans. Parce qu'il y a le temps. Le temps est limité, en fait.
Mm-hmm. Et même les lois. Sur les lois, il y a aussi des avantages qui sont valides pour un certain âge. Ouais.
C'est pour ça que l'orientation varie du type de l'âge de la personne. Généralement, quand tu as un étudiant qui vient avec 19 ans, il y a l'orientation également qu'on peut te proposer. Donc, ce type de cadrage-là, déjà, quand je fais, en fait, je l'ai fait longtemps, hein. Avec le cadre familial. Donc, il y a peut-être près de 20 de personnes, cadre familial, à traiter sur les dossiers, sur l'orientation.
Il n'y a pas mieux pour comme exercice, en fait. Il y a déjà un réel background derrière, quoi. Donc, pour revenir sur l'immobilier, donc, toi, c'est un sujet que tu peux parler de tes propres, tes investissements personnels.
Je peux parler.
OK. Donc, toi, ici en Allemagne, en termes de stratégie d'investissement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu rentres même déjà sur ce segment-là et ce que toi tu as mis en place de ton côté pour générer comme ça des revenus supplémentaires à côté de ton boulot et de ce que tu fais avec Réussi en Allemagne?
Ouais, je peux dire, bon, peut-être sur dans le cadre peut-être par exemple privé, en termes d'investissement en Allemagne, c'est que il y a, en fait, tout le monde nourrit l'esprit, une fois qu'on arrive en Allemagne. Et peu importe, je pense que même ceux qui nous écoutent des États-Unis vont dire la même chose. Quand on arrive en Allemagne ou en Europe, on dit, bon, là, il faut que je rentre au pays. Je sais qu'il veut rentrer au pays tôt ou tard. La question qui est claire pour tout le monde, on est d'accord, c'est que tôt ou tard, on va rentrer. Soit peut-être dans la vie, soit au mort. Ça, c'est clair. OK.
Moi, je me positionne pas trop sur la question. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de parler pour les gens, en fait. Mais moi, je pense que ça reste intéressant, en fait, de faire comment je peux dire ça? De créer comme ça des mouvements, en fait. Une façon de pousser une certaine pensée, quoi.
Ouais.
Donc, je trouve plus intéressant de dire, après là, il faut rentrer, parce que c'est là-bas que ça se passe. Mais de dire que vous allez tous rentrer, il y a un point d'interrogation. Il suffit juste de regarder les datas par le passé. Toute la génération qui est arrivée, il y a de cela 10, 5 ans, 10 ans, 20 ans, même 25 ans en arrière, tu as une bonne partie, ils ont fait les enfants ici, ils sont morts ici, les enfants sont
venus. Je suis d'accord avec toi, non, ce que je veux regarder, c'est que quoi.
On peut pousser plutôt la pensée que, ouais, c'est de l'autre côté-là qu'il y a les vraies choses.
Quand tu arrives généralement, en fait, ce que j'entendais à mon époque, c'était beaucoup plus que, gars, l'avenir c'est au pays. Je ne dis pas non. Mais généralement, en termes de timing, l'Europe aussi bien, pour ceux qui veulent vivre, il n'y a pas de problème. Chacun doit faire comment bon le semble. Moi, je suis par exemple le type de personne qui pense qui n'est pas trop rentré au pays. Quand je dis rentré au pays, c'est pas forcément le Cameroun. Je peux décider de rentrer peut-être en Afrique ou aller peut-être, en île Caraïbe. Bref, je veux dire.
D'aller dans une autre destination, vivre, quoi. T'es laissé le champ des possibles.
Disons où tu te sens mieux, en fait. Où tu te sens à l'aise, c'est tout. Maintenant, la question, pourquoi j'ai pris l'exemple là? Parce qu'en fait, c'est ce que généralement beaucoup disent. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est de savoir que quand le jour là. Donc, quand est-ce que tu vas le faire? C'est généralement pas connu à la base. Je vais dans sur la deuxième question. On peut dire, en attendant que ce temps-là soit connu, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question. Ça veut dire que
la maille.
Tu es arrivé, tu sais que tu vas peut-être, c'est pas moi, quitter l'Allemagne pour aller dans un autre pays. Je prends seulement un autre pays, mais tu ne sais pas quand est-ce que ce jour-là va arriver. Et entre-temps, mon gars, comment tu fais pour gagner ou pour profiter, à partir d'eux, en réfléchissant, en fait. Voilà ce qui me pousse. On me dit, attends, non, il faut que je voie comment ça fonctionne en réalité, un peu plus en profondeur, parce que je pense que ce n'est pas seulement... En fait, dans l'intention de l'Allemagne, ce n'est pas comme... En fait, l'Allemagne a son intention en nous faisant venir ici pour qu'on puisse notamment gérer la population qui est vieillissante. D'accord. Maintenant, toi, ta position, c'est quoi par rapport à cela? Comment tu fais pour également couper... Je dis, moi, j'ai tout ça, c'est que prends ta part de gâteau, en fait, ta part de partie du gâteau. Mm-hmm. C'est dans ça qui me pousse donc à m'engager dans le secteur investissement et entrepreneuriat. J'ai commencé en 2000, des années 2013, comme ça. J'étais en quotidien. Tu fais tout ça, c'est passé quand tu es en quotidien. Je commence à commencer à lire les
livres. Le mieux qu'un tel profil pour justifier ça. Tu étais en quotidien. Pour tous ceux qui sont là, salariés, qui se disent que non, mais toi, tu étais en quotidien. Non, il n'y a vraiment pas d'excuses.
En côté, justement, je prenais les livres. J'ai fait beaucoup de formations. D'abord, je suivais, j'ai quelques de mes mentors que je suivais en France. J'ai fait les formations en France sur l'immobilier où j'ai payé beaucoup d'argent. Et après, maintenant, j'ai eu un déclic. J'ai voulu maintenant. Et le marché de l'immobilier en Allemagne, j'ai pensé que c'était pareil. Bon, c'est l'Europe, c'est plus ou moins pareil. Mm-hmm. Alors, je me rends compte que ma tension, ce n'est pas la même chose. En France, je vois les success stories en France, mais je me dis, mais pourquoi en Allemagne ça ne marche pas? J'ai commencé à me renseigner. Bon, quand on commence à travailler en Allemagne, combien on gagne en réalité? Parce que j'étais encore étudiant, mais combien on gagne en réalité? Je vois que les salaires sont plus élevés en Allemagne qu'en France. Je me dis, mais c'est quoi le délit? C'est quoi ce truc? Il faut que j'aille en fond. Comment ça fonctionne en fait ce truc? Je me rends compte en fait qu'en Allemagne, l'investissement immobilier, en fait, c'est pas comme en France. Parce qu'en France, si tu as un salaire de 1500 euros, on peut y te financer généralement à 100% même, à 110%. Mmh. On finance les frais d'achat de l'immobilier et les frais de notaire même à côté.
Mais les frais de notaire,
ce n'est pas le cas. En Allemagne, ce n'est pas le cas. En Allemagne, tu peux gagner carrément 4 000 euros net, 5 000 euros net, mais on te demande d'apporter ton apport dans du financement. Mmh. Tu vois un peu le truc?
Oui, ils sont un peu plus réglementés, ils sont un peu plus safe, un peu plus sécurisés. Voilà. Ça se voit même avec les banques, même, quand même si c'est juste le prêt à la consommation.
Oui.
Ils sont un petit peu plus...
Tu vois, c'est un peu plus c'est différent. Quoi. Tu t'es dit, attends. C'est un peu ça, le truc. Je commence à me former dans le domaine, donc ça fait 40, peut-être 6 ans déjà. Je me forme, tout ce qui passe par la main, je lis, et ainsi de suite. Et je me repose la question, je me dis, vu ma condition familiale, notamment ici en Allemagne, au pays, il faut que je travaille d'abord en tant que salarié, peut-être quelques années. Mais qu'est-ce que je peux faire en tant que salarié en Allemagne et générer quand même du cash conséquent? Peut-être question qui peut peut-être me faire même déjà commencer à réduire mes heures au boulot. Je veux dire que quoi, je commence peut-être à 40 heures, après
tu peux en temps partiel,
à 35, 30, ainsi de suite, avant de quitter. Et je me dis, je regarde le truc en ligne, e-commerce, je regarde, c'est vraiment le travail, je regarde ici. Et je vois qu'en fait, l'immobilier, c'est une niche en fait. Parce que j'ai déjà, en tant que salarié, moi je dis toujours, le titre de salarié, c'est le titre par excellence d'investissement immobilier en Allemagne. Parce qu'on ne pose pas beaucoup de questions. On fait tes trois fiches de paye.
On veut les trois derniers. On s'attend pas à ça, comme je dis, on ne te pose pas trop de questions. Si on ne pose pas de questions, ça passe. Quoi.
On ne te pose pas beaucoup de questions. On veut savoir les trois fiches salariales des trois derniers mois. Si tu es un peu discipliné avec tes finances, alors tu es finançable directement. Et dessus quoi? Si tu es encore dans une bonne entreprise, une grande entreprise encore, tu peux profiter déjà de la notoriété de cette entreprise.
L'entreprise, ouais, comme levier, ouais.
Tu vois? Voilà. Et du coup, c'est comme ça que tu accèdes, mon gars. Et c'est voilà tout ce qui me. Il me dit, mais attendez, en réalité, le salariat. Les gens vont traiter, vont dire, le salaire, c'est l'esclavage. On est d'accord, si vous voulez, donnez le nom qu'on veut. Mais la question, c'est que comment je peux bénéficier de ma position de soi-disant
le salarié, ouais. Ce que tu dis est très, très pertinent. Moi, quand tu dis ça, moi, quand je reviens dans mes souvenirs, je vois même en tant qu'étudiant, quand tu vas voir ton banquier, ton conseiller, et qu'il voit, peut-être tu as bossé, Daimler, c'est la maison mère de Mercedes-Benz, il voit peut-être, même si tu es en flexi, que tu gagnes, ça peut être 800 ou 1000 euros. Tu es considéré différemment que quelqu'un qui fait un simple boulot du McDo, même s'il gagne 1200, même s'il gagne 400 euros de plus que toi. Le simple fait qu'on voit Daimler, en fait, qu'on voit Daimler, que c'est Mercedes-Benz, on te considère autrement et tu peux avoir certains avantages que quelqu'un qui gagne plus que toi n'a pas parce que peut-être son l'entreprise pour laquelle il bosse n'est pas friendly, n'est pas quelque chose qui valorise, quoi.
Tout à fait. Donc, c'est déjà de cette façon de penser, là, en fait. Et moi, j'ai toujours intégré cette façon de penser, là, depuis quand j'étais étudiant, en fait. Parce que nous sommes dans un système qui est complexe. Le système allemand est complexe. Il ne faut jamais prendre une décision au premier niveau. Il ne faut jamais... En fait, il peut dire, en fait, que pour peut-être récapituler, c'est que le plus dur en Allemagne, c'est de réagir de la façon la plus émotionnelle, le moins d'émotions possible dans tes décisions. Si tu réussis ça en Allemagne, tu vas t'en sortir. Ça veut dire que quoi? Réussir, je dis, chaque fois qu'il y a une situation, réussir à laisser l'émotion le plus, au niveau le plus minime, tu vas toujours t'en sortir.
Prendre la hauteur et puis...
Ça se passe avec, avec les locataires, ça se passe avec n'importe quoi. Donc, on dit que bon, voilà, il essaie d'être comme ça, mais c'est là, donc il comprend de ça, en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup... Et c'est cette façon de réfléchir qui m'a propulsé aussi, aussi aujourd'hui. J'ai commencé en 2000... Le premier bien que j'ai acheté, c'est en 2018. Donc, ça fait deux ans, c'est pas moi, quelques mois que je travaille. Donc, je sais pas... Je viens de commencer de bosser. Mais j'ai déjà un patrimoine aujourd'hui. Si on veut faire la valeur peut-être nette, avec les charges comprises, je suis à près de 600 000 euros. Hein.
Et est-ce que tu avais une stratégie derrière, une stratégie globale, je veux dire, pour essayer de dégager... Tu as suivi plein de formations en France, tu sais un petit peu la stratégie. Il y a plusieurs écoles, hein, mais globalement quand même l'idée c'est que ce qui rentre doit être supérieur, enfin ce que les locataires te payent doit être supérieur à ce que toi tu dois payer à ton banquier en termes de charges, en termes de crédit, en termes de tout quoi d'impôts. Est-ce que toi tu avais une stratégie globale comme ça avant de te lancer sur ton premier bien?
Oui, j'avais une stratégie déjà globale parce que en Allemagne, par exemple, tu vas voir je les appelle entre parenthèses les gourous, ils vont te dire que non, il faut acheter le bien immobilier, il faut injecter encore peut-être 100 euros chaque mois, 50 euros chaque mois, sur 3 ans, ainsi de suite, tu achètes, ne te fais pas de soucis, dans 40 ans, tu vas vendre, gagner l'argent, ou dans 20 ans.
Dans 20 ans.
Moi, je suis, ne serait-ce que dans mon esprit, j'adopte la façon entrepreneuriale. Moi, je pense que ce qui va se passer dans 20 ans, personne ne sait. Donc, je vais gagner l'argent tout de suite. Donc, dès la sortie chez le notaire, je veux gagner l'argent. Je suis pas là pour. Et ma stratégie, c'est que je veux générer assez du cash pour que des revenus locatifs, ça veut dire que quoi, quand je remets à la banque, que j'ai au moins encore minimum, ça veut dire que si c'est venu que le business, le bien n'a pas, le deal n'a pas été bon, que j'ai au moins minimum 100 euros. Et je parle vraiment du minimum, quoi. Et j'ai eu des cas, le premier bien par exemple, j'ai fait des cash flow positifs avec impôt, en fait, ça veut dire que je retire l'argent que je remets à la banque.
À la banque,
je retire l'argent que je paye à celui qui s'occupe de la maison. Et ce qui me reste comme gain, en fait, que je vais peut-être faire, on va retirer l'impôt après, à plus de 200 euros, quoi. J'ai eu des cas comme ça. Premier deal, un seul deal. Maintenant, imagine-toi maintenant que tu fais ce genre de deal-là chaque année. Parce que l'idée était de dire, bon, voilà, je vais faire en privé, je vais atteindre 1 million d'euros de patrimoine et je vais passer directement en
société,
en ce qu'on appelle un SASC.
C'est quoi l'équivalent de la SCI en France?
Je pense à les sociétés anonymes. Je devrais une société anonyme, en fait. De quoi on appelle les SARL. S-A-R-L.
C'est intéressant tout ça. Et c'est derrière, en fait, puisqu'il y a une chose de savoir un petit peu globalement la stratégie, mais au niveau de l'application, c'est ça le plus difficile, en fait. Et on sait qu'en France, généralement, ou bien dans d'autres pays, enfin, de ce qu'on a l'habitude de voir, il faut créer, il faut donner une certaine valeur en fait au bien, parce que tu vas rarement trouver un bien qui s'autofinance comme ça, même s'il y en a, hein, mais ça c'est plus dans le bouche à oreille et par rapport aussi à ta capacité à négocier, mais généralement il faut créer soi-même en fait cette valeur-là, soit en achetant un truc qui est pourri et que tu rénoves pour augmenter la valeur, ou alors vraiment tu as cette capacité de négociateur où tu peux aller profiter sur des opportunités, peut-être il y a une séparation, couple en séparation, ou bien un truc qui est peut-être comment est-ce que tu réussis à dégager ce cash flow là? Est-ce que tu fais de la rénovation? Est-ce que tu fais, comment ça se passe?
Et justement, non, c'est également une bonne question, parce que en fait dans les formations que j'ai fait, mon mentor justement il disait, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, je peux s'appeler Cédric Anicette. Donc, il disait toujours qu'en immobilier, il faut toujours chercher le canard boiteux, quoi. Notamment, le canard n'est pas cassé. Il aimait bien sa phrase, là. Et moi, j'aime également cette phrase. C'est justement, le premier, en fait, je cherche les biens à fort potentiel. Ça veut dire que quoi? Et je recherche un bien, en fait, qui est facilement louable. Je peux te donner ici comme spot, comme business spot de ta chaîne. Évidemment, les biens, je conseille les biens pour ceux qui commencent, de prendre en Allemagne, de Zweizimmerwohnung. C'est deux pièces, quoi.
Ça veut dire deux pièces,
une chambre, un salon, une cuisine, une douche. Pourquoi? Pour la simple raison que les Allemands ne font pas beaucoup d'enfants. Ils aiment bien les petites maisons. Donc, ça veut dire que généralement, les deux pièces comme ça, ils peuvent vivre en couple pendant longtemps.
Ou seul, ouais.
Troisièmement, c'est que tu sais qu'un locataire peut rester longtemps, vivre dedans très longtemps. Là, je parle un peu du côté un peu légal parce que normalement, quand un locataire reste un peu longtemps, tes marges, parfois, peuvent diminuer, quoi. Ça, c'est le cadre typique allemand. Ce qui fait que quand tu as ça, tu sais qu'on monte un dessin, les mecs ne vont pas rester plus de 5 ans. Et tu vas faire tourner le truc. Quoi. Donc ça, c'est peut-être ça, c'est un spot. Il y a beaucoup d'autres raisons.
Et là, tu peux faire le prix du truc pour monter, même s'il faut nuancer, ça dépend. Comme, franchement, l'Allemagne, c'est un peu presque comme les States. Hein. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est fédéral. Donc, tu peux avoir une loi qui est valide dans le Baden-Württemberg. Cette loi-là, elle n'est pas valide dans le Brandenburg ou dans le Sachsen. Mais globalement, pour expliquer quoi, donc c'est profiter en fait de cette rotation là pour potentiellement augmenter les prix des loyers là où, dans le cadre de la légalité et de potentiellement déjà, augmenter son cash flow.
Tu peux même prévoir si tu t'achètes une maison par exemple qui n'est pas encore louée, comme le premier bien, tu peux même prévoir déjà dans le contrat de bail d'augmenter le loyer même si le locataire ne quitte pas la maison quoi. C'est les possibilités. C'est ce qu'on appelle staff meeting en Allemagne. Donc, j'ai créé jamais une formation. Je vais bientôt faire la promotion là-dessus sur l'immobilier. Il y a quelques élèves, ceux qui me connaissent hein, d'entourage. Je n'ai pas encore fait de publicité qui ont déjà appris sur l'immobilier là. Parce que
Le truc est déjà validé. On pourra mettre aussi le lien en description ou bien s'il y a un truc peut-être pour les emails.
Je pourrais t'envoyer justement pour ceux-là qui sont peut-être intéressés, que j'ai amis également. Parce que sur la stratégie même de l'investissement, parce que pourquoi? Parce que quelqu'un m'a dit, quand je parlais à un ami, il m'a dit que non, il y a les Allemands qui font déjà beaucoup de formations dans des sujets immobiliers. J'ai dit oui, on est d'accord. J'ai suivi les formations également des Allemands. La façon d'investir pour quelqu'un qui vient en Allemagne se battre comme nous autres et quelqu'un qui est en Allemagne déjà, qui dit qu'il a hérité de tuer quelques biens, ça doit être forcément différent.
C'est logique, quoi. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même famine.
Tout à fait compris. Et on vise pas le même futur, en fait.
Effectivement. Ils sont plus safe. Généralement, ils sont plus safe. Il faut aller chercher le cash flow.
Ça m'appartient, voilà, tout ça. C'est moi, c'est ça, mon nom, tout ça, des trucs comme ça. Donc, on a une autre philosophie derrière. Et justement, pour l'autre raison où tu disais, par exemple, que j'investis dans l'immobilier justement parce que je cherche le truc à fort potentiel. Et également les villes stratégiques, les immobiliers stratégiques où tu peux acheter. Peut-être il faut que tu achètes, tu injectes un peu l'argent. Dedans, ça veut dire que tu as peut-être trouvé les immobiliers à problème en fait. Donc, généralement, je sais les immobiliers qui ont les problèmes parce que généralement, tu peux beaucoup faire des gains là-dessus. Ça veut dire quoi? Un locataire qui ne s'en sort pas. Peut-être le bailleur a grillé sa carte avec le locataire parce qu'il s'exprime mal, il aborde mal son locataire. Donc, il a grillé ses cartes, ça ne passe plus bien. Mais il y a seulement une relation de compte. Ça veut dire quoi? Il regarde seulement chaque fois du mois dans son compte et si l'argent est rentré. Donc, il n'y a plus de relation entre le bailleur finalement et le locataire. Donc, quand le bailleur a grillé cette carte-là,
C'est chaud parce que même les lois en fait protègent un petit peu. On met pas les gens dehors comme ça ici en Allemagne quoi. On met pas les gens dehors. Quelqu'un peut rester 6 mois dans ta maison sans payer.
Tout à fait. Donc c'est de bien en fait. Il y a les élévations de voix entre le locataire et le bailleur. Le bailleur peut pas mettre son locataire dehors. Bref, il ne se parle plus. Et là maintenant, je viens là-dessus. Je sais que je parle bien allemand. Je sais que j'ai étudié en Allemagne. Et j'ai une approche différente.
Pacifique, diplomatique quoi.
Voilà, un peu diplomatique parce que je suis un entrepreneur. Et je ne suis pas là pour savoir si le bailleur et le locataire est beau ou pas beau. Je m'assure que le loyer doit être payé tout le temps. Et quand, en fait, je fonctionne comme un Allemand. J'ai eu des cas, en fait, je vais prendre un exemple. Quand j'ai loué mon parking, j'ai eu un cas où j'ai téléphoné, on a tout arrangé. Et quand au rendez-vous, quand le monsieur est arrivé au rendez-vous, c'était un Allemand, il m'a dit, mais attends, je veux voir celui avec qui j'ai téléphoné, mais c'était moi. Il me dit, mais attends, non, c'est pas toi. Et je t'assure, j'ai eu ce genre de cas. Ils ne savaient pas que c'était un écran.
Okay, non, c'est pas logique. Ils ne sont pas encore arrivés à ce stade.
Tout à fait. Et à la fin, il me dit, mon gars, tu t'es bien intégré. Il me dit,
de façon... Tu peux prendre ça des deux côtés, du côté un petit peu péjoratif comme du côté positif.
Tout à fait.
Moi, je vois ça, c'est positif.
Et même à mes amis, quand je vais parfois au Cameroun, je leur dis, quand je suis au Cameroun, si tu viens en Allemagne, tu vas peut-être penser que je suis quelqu'un différent. Parce que quand tu es dans un système, il faut te comporter comme le système. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple avec les loyers. Il y a beaucoup de nos Africains qui ont également, de nos frères africains qui ont également investi dans l'immobilier en Allemagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent plus à avoir le contrôle sur l'immobilier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, il est dans la posture, bien qu'il est le bailleur, il est dans la posture à supplier le locataire à payer son loyer. Mais je me pose la question, attends, en passant, toi-même qui parles, toi-même qui est étranger, qui est bailleur aujourd'hui, quand tu étais locataire en Allemagne, tu avais quelle relation avec ton bailleur?
Parfois, tu ne le connais même pas, parce que si c'est en gestion et tout, tu ne le connais même pas, tu n'as pas de relation avec lui.
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si, par exemple, tu sais que tu as mis dans ton contrat de bail, c'est comme ça que ça fonctionne en Allemagne. peut-être, tu vois, peut-être d'autres, ceux qui vont m'écouter vont dire, ah, là, les méchants. Non, il n'y a pas de méchants et de gentils en business. Il n'y a pas de méchants et de gentils. La question, c'est qu'il s'agit de l'intérêt. Ça veut dire, prends un exemple qui n'en parle pas. Tu as un locataire que tu as mis dans ta maison, tu as arrangé le contrat de bail tous les 5 du mois, tous les 6 du mois, l'argent doit entrer dans le compte. Qu'est-ce qui se passe? Le 6, il ne vit pas, l'argent n'entre pas dans le compte. Le 7, l'argent n'entre pas dans le compte. Le 8, il n'entre pas dans le compte. En fait, le 8, tu constates qu'il n'y a pas eu d'entrée d'argent dans ton compte. Et le 9, tu prends le téléphone ou tu écris sur WhatsApp pour dire, salut, monsieur tel, je n'ai pas reçu votre argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça en Allemagne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le 6, l'argent n'entre pas. Le 7, le 9, il reçoit la lettre. Et le 9, il reçoit la lettre avec directement l'amende. C'est comme ça fonctionne en Allemagne.
Ça, je on te met directement le drogue, la pression.
Directement. Donc, directement, tu fais l'amende directement. Tu lui dis, bon, voilà.
Amende, généralement, c'est une amende avec un avertissement que la prochaine fois, c'est un truc. Tout à fait.
Et de façon polie. J'aime bien ça. J'aime bien les Allemands. En Allemagne, j'aime bien la langue parce que c'est poli.
Mais c'est un poli.
Voilà, justement, j'ai dit quoi. On te rappelle à l'ordre de façon poliment. Et justement, quand tu le fais, parce que il faut jamais oublier que le locataire va toujours détester. Justement, quand tu es africain, il va toujours détester. Tu utilises les gros mots. Mita Verbund, Mita Schutz, les gros, ces gros mots-là.
Ah, oui, c'est un peu les paragraphes, là. Il dit que paragraphe tel, alinéa tel, tel.
Et, voilà. Il pense que tu es noir, tu parles pas bien allemand, tout ça. Et tu vas le surprendre. Quand il va manquer le 6 et le 9, tu lui envoies une lettre avec un bon allemand. Il t'assure que la prochaine fois, il va t'appeler. Quand il va savoir qu'il ne va pas arriver, il va t'appeler même 3 jours avant pour dire que désolé, je ne suis pas sûr que je le situerai le loyer parce que machin. Ça, c'est à la peur. C'est-à-dire que tu as marqué, j'ai un point chez le locataire. Moi qui n'étais pas, je suis locataire. Je ne dis pas qu'il faut rendre la vie difficile au locataire. Non, pas du tout. Mais il faut.
Ce sont les règles du jeu.
Tout à fait. Il faut rappeler le locataire. C'est comme ça que ça se passe. Tu envoies la lettre et ça n'exclut pas le fait qu'après, vous pouvez causer. Tu peux causer avec lui, mais le côté riche, tu as déjà fait. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, ça te protège. Si tu ne le fais pas, si tu tolères...
Tu n'auras pas de levier pour justifier.
Tout à fait. Si tu vas maintenant, on va aller à la justice, le locataire peut gagner derrière toi. Parce qu'on va te dire, on appelle ça comment, le président, le Richter, ce qu'on appelle en français, je pense que c'est le président du tribunal, il va te dire que c'est une situation que tu as déjà acceptée. Ça veut dire que tu n'as pas déjà refusé ça dès le départ. Donc, on parlait du fait que tu n'as pas de problème avec, en fait. Donc, comprends-moi pourquoi tu acceptes 2-3 fois et la 4e fois, tu te fâches. Et finalement, tu vas perdre. Parce que c'est pas ça dans le texte de loi. Donc, c'est un point très important, surtout quand tu veux faire de l'investissement dans l'investissement locatif, en fait, en allemand.
Yes, yes. C'est vraiment intéressant tout ça. Donc, yes, wow, c'est vrai qu'on est un petit peu débordé au niveau du timing, hein, mais bon. Ouais. Tu dis donc que c'est un petit peu ça ta stratégie globalement, et puis après un certain niveau de patrimoine, tu vas passer en société, pour pouvoir maximiser aussi tes chances de pouvoir même aller sur du plus gros deal, pourquoi pas peut-être des immeubles et tout. Yes. Mmh. Et donc il y a des chances que dans les prochaines semaines, donc il y ait des accompagnements sur ce sujet-là pour les personnes qui sont intéressées.
Tout à fait.
On va mettre les liens en description.
Justement, pour ceux qui veulent, par exemple, investir dans l'immobilier, en allemand, moi, je conseille beaucoup parce que, comme on dit, la majorité de nos personnes, avant de se mettre à nos propres comptes, on passe généralement par le salariat. Même si tu passes par le salariat pour 2-3 ans, tu peux profiter de ce temps de salariat-là. Je te parle de... J'ai construit un patrimoine aujourd'hui de près de 600 000 euros. C'est en 15 mois. J'ai commencé à investir, j'ai commencé le premier bien, c'est le 24 décembre 2018. Donc, ça fait pas encore 2 ans carrément, ça fait 2 ans, en fin de cette année.
On a même parlé de ça, justement, tu as aussi évoqué le fait que tu avais un parking, ça peut être aussi un début pour quelqu'un qui peut-être se dit, bon, je vais parler sur un peu gros budget et tout. Ouais. Mais ça, c'est une idée forcément, c'est des canisters, ça, c'est sa première acquisition. Et pareil pour Florian, c'était aussi du parking.
Mais je vais un peu plus loin dans le parking, je vais te donner un peu un... Peut-être que tu appelles ça spot.
Yes.
Tu sais comment je fais le premier investissement immobilier sur le parking?
Comment tu lances
ça? Je fais zéro apport, quoi. Voilà comment ça se passe. Tu sais qu'en Allemagne, quand tu prends une maison généralement de 3 pièces, quand tu as une petite famille, tout ça, on t'impose généralement de louer le parking aussi avec. Généralement.
Parce qu'on suppose que tu as une voiture?
Non, même si tu n'as pas de voiture. Généralement, les bailleurs, ils construisent les maisons, généralement les maisons familiales, ils veulent en fait que... Ils ont le parking aussi qu'ils construisent à côté. Parce que ça les apporte beaucoup. Si tu loues un parking en Allemagne seul, donc sans maison, tu dois payer ce qu'on appelle le Umsatzsteuer dessus. Donc tu vas payer la taxe sur la plus-value, quoi, dessus. Or, si tu as une maison, par exemple, qui a aussi à côté un parking, tu peux louer les deux. Là, tu payes seulement. Là, ça se considère comme si tu louais une maison, simplement.
Pour les gens peut-être qui ne savent pas ce que c'est, on peut rappeler. C'est l'équivalent de sa TVA.
C'est ce qu'on appelle la taxe sur la plus-value. Bon, c'est la TVA, oui. C'est la taxe sur la plus-value.
Yes.
Bon, comment ça se passe? Ça veut dire que quoi? Tu as dans les cas, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui vivent dans les maisons comme ça, ou le parking obligatoire. On leur dit, bon, si tu prends la maison, ça va être parking ou ça ou rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis dans la maison qui est comme ça, et le premier investissement, c'est fait de quelle façon? Je remarque en fait que dans la rue où je parque mon véhicule, j'ai pas une voiture, j'ai pas une Porsche, hein, j'ai une simple voiture, et je me dis, mais attends, je vis dans un quartier où sur la route, on parque gratuitement. Et mon parking est souterrain. Et je vois que je ne suis même pas le parking, en fait, parce que les manœuvres entre le parking souterrain, ressorti, tout ça, tu peux gratter même ton véhicule, tout ça. Donc, tu n'as même pas tout le temps pour parking, en fait. Je me dis, mais attends, il y a quelque chose à réfléchir. Parce que pourquoi ne pas garer dehors, puisque je le fais de toute façon, et louer ce parking? C'est un peu plus cher. Il dit, OK, je vais voir ça. J'appelle mon bailleur, parce qu'il faut être légal. J'appelle mon bailleur, il dit, mon gars, je n'ai plus de voiture. Est-ce que je peux me permettre de sous-louer tout mon parking? Il me dit, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que tu payes.
Tu payes ton truc chaque mois.
Et donc, je m'en vais. Donc, le parking coûtait 45 euros de location. Je passe donc à 60 euros. Et je mets l'annonce sur eBay Kleinanzeigen. Donc, eBay petite annonce.
eBay petite annonce, ouais.
Et à moins de 5 minutes, j'ai eu des demandes terribles. Et c'est comme ça que les gars sont venus. C'était un rang carrément pour venir visiter le parking. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où je commence donc le parking depuis aujourd'hui 2 ans. Et je fais donc un cash flow de 15 euros chaque mois sans me casser. C'est pas mon parking, je le souloue simplement. Donc voilà, par exemple, tu vois, c'est dans la façon de penser. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque mois, chaque année, j'ai donc 180 euros que je fais passif avec ce parking. Et l'année, ça fait donc 180. En fait, l'année, ça fait 180 euros. Chaque année, j'ai 180 euros qui tombent comme ça sans que je ne me casse en fait.
Ah, c'est magnifique, magnifique.
Quelqu'un va peut-être dire que c'est rien, c'est vrai, mais.
Ouais, mais imagine si tu multiplies le truc. Et aussi, c'est le mindset sur toi, en fait, de voir l'opportunité et de créer, quoi. Si tu peux réfléchir comme ça, petite aisselle, s'il faut scaler ça, ou bien si tu fais du fois 10 dessus, ben, te laisse toi-même compter tes multiples derrière, quoi.
Chaque mois, ça tombe. Et voilà, quoi. Donc.
Excellent, excellent. Ben, dis-moi, Franklin, c'est quoi ton obsession aujourd'hui?
Dans le côté, quand tu dis obsession, en fait, obsession en général en Allemagne, ou mon obsession quand je vois, j'observe ma vie, ou dans quel sens?
Ouais, quand dans ta vie, dans ce que, puisque de toutes les façons tout ça est corrélé, tout ça il y a un épicentre de tout ça, quoi.
Bon, en fait, moi je pense que peut-être pas la obsession, mais je pense que ce qui me pousse chaque matin avant de me lever et regarder autour de moi, c'est que la plus grosse peur, en fait, c'est de me retrouver un jour peut-être sans argent, un truc comme ça, ou peut-être sans avoir de, c'est pas moi, quand je parle d'argent, c'est pas forcément l'argent matériel, c'est peut-être me retrouver sans la capacité, ça c'est une certaine capacité financière, en fait. Je me souhaite à moi de profiter le plus longtemps possible et de faire profiter aux autres également le plus longtemps possible des possibilités qu'on a en Allemagne. Je suis encore pour réussir en Allemagne. Une fois qu'on aura atteint un certain level, on pourra scaler simplement sur d'autres pays.
Yes.
D'autres pays aux alentours, peut-être même aux États-Unis. Je suis beaucoup pour justement voir en fait des possibilités. Je suis peut-être allé peut-être ceux qui nous suivent des États-Unis. Je suis allé aux États-Unis, par exemple. J'ai vu un peu comment les gars vivent. Il y a 2 semaines. J'ai vu comment les gars vivent. Et je me suis dit, mais attends, mec, c'est dingue. En fait, j'ai dit mon pote qui m'attend.
C'est jouer la nuit.
C'est contre où tu te trouves, mon gars. Un mec, il a 3 voitures au parking, il roule à peine 1 voiture. Il n'a pas besoin de tout ça. Et à côté, il préfère ne pas avoir de congé. Tu vois? Donc, il y a ce genre de
paradoxe, je vais dire.
C'est ce paradoxe, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail à faire. C'est ce que les gens font déjà. Et c'est bien parce qu'il y a un niveau de communauté de façon générale qui se fait déjà, que ce soit en Chine, n'importe où on se trouve, on est capable à s'imposer. Donc, c'est ça ma plus grande passion aujourd'hui. Je me dis, mec, le salariat, ce n'est qu'une façon de gagner l'argent. Ce n'est qu'une façon, une seule façon. Il y en a tant d'autres. Et l'État allemand encourage. Généralement, tous les pays développés encouragent cela. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas dans la posture de demander l'argent, à l'État, il t'accompagne.
Puisque tu crées de la valeur.
Tu crées la valeur, en fait. Mais je m'en voudrais aussi, Guy Bertol a évoqué un point ici. Tu parlais de rapatriement. Je m'en voudrais vraiment ne pas dire ça ici, dans ton podcast, parce que c'est un truc très important. C'est la question du passeport allemand. C'est la question du passeport allemand. Parce que
tu as même fait une vidéo aussi, pour... ou bien c'est dans la même vidéo que tu parles du passeport. Non, du coup, tu as fait une vidéo. Ah oui.
Fait
tu parlais du fait que mais, le passeport, vous pourrez derrière le passeport et tout.
Voilà, tout à fait.
Il y a plein de personnes ici qui font des dizaines d'années juste avec le home de fausse.
Justement, qui n'est pris que
c'est joué limité.
Il veut le passeport allemand et le passeport allemand. Parce que peut-être ceux qui me coulent vont dire ah, il a son passeport allemand, il est carreau, le machin. Je veux réitérer ici que je ne suis pas allemand du tout et je n'ai même pas l'intention d'y être. Pas pour le moment. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être allemand, pas du tout. Mais moi, je suis contre le fait de nos frères qui nous écoutent ici. C'est mon point de vue. De vouloir chercher des choses sans se poser la question de pourquoi. Tu vois, ça manque parfois. Donc, X, Y, parce que je veux voyager avec. OK, si tu veux voyager, pour ceux qui veulent bien voyager, le passeport allemand te donne certes l'accès dans beaucoup de pays sans demander le visa. Il dit bien précis sans demander le visa. Mais quand tu as un titre de séjour également et que tu crées de la valeur, que tu as un certain niveau de revenu, tu as aussi accès dans tous ces pays-là. Je suis allé demander un visa pour les États-Unis. On m'a octroyé. Et je pense que dans tous les pays où je vais aller, parce que j'ai à côté de mon salaire, je n'ai quand même des revenus quand même conséquents avec l'immobilier. J'ai vraiment du cash, vraiment des revenus conséquents.
En fait. Et même le séjour en fait allemand aussi joue un rôle. Ça fait qu'on voit que ouais, il a déjà un séjour peut-être occidental, en l'occurrence l'Allemagne qui est un pays assez. Ouais.
Bien sûr. Ouais. Ça veut dire en fait que si vous venez en Allemagne pour les études, vous voulez vraiment étudier, vraiment concentrer, parce que ça va vous, c'est le moyen par excellence et le plus rapide même de vous donner tous le passeport que vous voulez en fait. Maintenant, si vous venez dans d'autres situations, on parlait des Asiens ici, bon, là, vous n'avez pas trop le choix. Il faut se régulariser. Parce que si vous n'avez pas de séjour en Allemagne, ce serait difficile de vous en sortir. C'est difficile de contourner ici par rapport à la France. Par rapport à d'autres pays comme la Belgique, c'est dur. Donc, si quelqu'un n'est pas régulier, n'est pas de façon légale en Allemagne, OK, je suis là, je comprends ça. Mais quand quelqu'un vient, que ce soit pour les études, que ce soit pour la formation, que ce soit pour le groupement familial, vous n'avez pas besoin forcément de courir le passeport allemand. Il y avait une époque, je pense que Philippe l'a aussi dit dans ses vidéos, il y avait une époque où nos parents en Afrique venaient ici, soit pour les séjours, et on leur proposait le passeport allemand, le passeport français. Ils refusaient carrément, catégoriquement. Ils voulaient rester camerounais ou togolais ou truc. Ils refusaient ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mouvance qu'ils vont dans le sens où il faut le passeport allemand, il faut d'abord le passeport allemand. Non! Mec, créez la valeur. Les gars vont venir vers vous, vous suppliez de devenir allemand. Vous allez dire non. Parce que faites comme les Européens. Les Européens ne font pas les trucs sans intérêt. Ils ne font pas les trucs sans intérêt, en fait, les Européens. Maintenant, si tu dis maintenant, voilà, tu peux faire tu as des ambitions peut-être politiques. Peut-être tu vas rentrer dans les endroits, dans les trucs stratégiques d'Allemagne. Par exemple, tu veux travailler dans le nucléaire en Allemagne. C'est un endroit un peu restreint. On peut peut-être imposer le passeport allemand là-bas. Maintenant, si tu vois que, bon, il y a la possibilité peut-être de copier la technologie, ou peut-être d'apprendre et investir dans ton pays plus tard, quand ça va se développer, OK.
C'est une stratégie géostratégie derrière, ouais, ouais. Okay. Ouais, ça fait complètement sens. Ça fait sens, ce que tu dis.
Mais a priori, en fait, je considère le passeport allemand comme l'argent, comme un billet de 100 euros. En fait, un billet de 100 euros, en fait, ou un billet de 500 euros, en réalité, c'est quelque chose qui n'a pas d'âme, en fait. C'est un truc qui est neutre. Tout dépend de ce que tu veux faire de ça, en fait. Tu veux prendre des 100 euros pour investir dans un business, tu peux faire ça pour faire un don, tu peux faire ça également pour payer quelqu'un pour qu'il batte sur quelqu'un d'autre. Donc, à la base, en fait, c'est un truc qui est neutre. Donc, c'est comme ça que je considère également cette question de passeport allemand que je voulais également réitérer ici.
C'est très pertinent. Merci pour cette remarque-là. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus de ce que tu fais? Déjà, on va mettre tous les liens qu'on a évoqués en description, surtout ta chaîne YouTube, Réussir en Allemagne. Sinon, est-ce qu'on t'écrit sur LinkedIn, je ne sais pas, peut-être sur Facebook.
Sur LinkedIn également, j'ai seulement le profil j'ai seulement mon profil personnel, mais sur YouTube, au niveau du canal d'information, il y a l'adresse email, donc contact@reussiteenallemagne.com que j'ai déjà créé. Je suis en train de travailler également sur le site en ce moment. Je sais peut-être pendant encore un peu de temps, mais on travaille. Je vois l'effet que ça fait dans la communauté, côté positif, quand je vais dans. Parfois, avant l'épidémie, j'étais dans quelques associations. On m'invite déjà aussi d'aller tenir des présentations pour les étudiants.
Des petits séminaires,
Et tout ça, ouais.
Non, c'est vraiment cool.
Je pense que beaucoup ne s'en sortent pas en Allemagne parce qu'ils sont faibles. Beaucoup ne s'en sortent pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils devraient s'en sortir.
Ouais, moi, je pense qu'il y a aussi... Moi, je me suis rappelé ça. C'est ce que nous, on essaie un petit peu de faire avec 10 000 codeurs. Des grands frères, des grandes soeurs, quoi, des repères, quoi. Pas juste grands frères dans le sens... littéral du terme, mais plus de celui, le mentor, quoi. tu vois, qui tout te montre un petit peu, voici ce que j'ai comme background, voici l'expérience que j'ai, et j'ai un petit peu touché de tout ça. Et tu n'as pas besoin de faire tout ce que moi j'ai fait. Tu peux prendre directement le raccourci si c'est ça qui est ton objectif, en fait.
Tout à fait. Donc, moi, je te dis, par exemple, j'ai écrit un e-book que je donne à toutes personnes qui sont peut-être abonnées à ma chaîne ou qui sont même pas abonnées, qui cliquent sûrement sur le lien. Dans toutes les vidéos, il y a juste en bas, c'est un lien, c'est un e-book que j'ai écrit où je partage, en fait, où je l'ai dit, en fait, je partage également mes erreurs. Yes. Et je l'ai dit, en fait, comment ils devaient faire pour rapidement s'en sortir, même pour ceux-là qui sont même pas encore, qui n'ont pas commencé les études. Et comment ils peuvent accélérer, en fait.
Ouais, je pense que c'est en description des chaînes. Je vais récupérer ça pour rajouter aussi dans, sur les références de tout ce qui a été mentionné dans cet épisode. Donc, merci Antoine encore. Et dis-moi, avant qu'on ne se sépare, ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard?
Un débrouillard, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui se meut, qui se bat à apporter peut-être du contenu et qui essaie à sa façon d'apporter de la plus-value à la communauté, par exemple, notamment cet entretien que tu fais ou ce que tu as fait jusqu'ici, c'est un temps que ça te coûte. Et moi, je dis toujours, généralement, si on veut peut-être prendre peut-être débrouiller un poste, je ne sais pas si peut-être tu gagnes avec, parce que généralement, on va te coller directement, voilà, il fait ça pour de l'argent. Moi, j'ai par exemple dit qu'en termes d'intérêt, si on dit, bon, voilà, si tu as terminé les études, en fait, tu travailles déjà, tu n'as rien à foutre en réalité. Si tu peux décider de ne pas faire ça, tu peux décider de ne pas faire de vidéo, parce que tu ne vis pas de ça. Tu as peut-être ton salaire, tu as peut-être les autres business que tu gagnes déjà toute la vie avec, tu peux décider de ne pas faire. Mais tu penses qu'en le faisant, ça va créer, apporter de la valeur, plus de valeur à la communauté. Et c'est une bonne chose. Je pense que c'est différents puzzles comme ça qui vont se faire. Et c'est l'ensemble de ces puzzles avec qui vont maintenant créer finalement le tollé dans toute la totalité. Et apporter une autre image de la diaspora. Et moi, je sais qu'à travers ma chaîne, à travers tout ce qu'on fait, on va comprendre, ça va faire comprendre que les jeunes Camerounais, et attention, ils ne sont pas seulement les grands ingénieurs en Allemagne, ils peuvent également créer la valeur dans tel domaine et ils peuvent également être pertinents dans les sujets qu'ils abordent.
Yes.
Tu vois?
Yes.
C'est pour ça que je suis sorti au créneau pour expliquer le côté des rapatriements. Il y a également le même cas similaire en Chine. C'est-à-dire qu'on va pour dire aux gars qu'il faut respecter les institutions. Et il y a également, il faut comprendre ça. Il faut qu'on fasse moins de bavardage, mais qu'on fasse beaucoup plus de trucs concrets et directs pour apporter moi la bonne information. Et je pense que ce que tu fais sur le débrouillage, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je dis, bon, direct, quand tu m'as invité, je dis, bon, voilà, pourquoi pas. Et on peut venir à tout moment. Hein. Si tu estimes qu'il y a un truc peut-être qu'il faudrait que je vienne peut-être apporter mon expertise, ma façon de voir les choses, généralement, me crête. Entre les amis ici, hein, en Asie, on parle de fou ou de quelqu'un qui est c'est pas moi.
Logique,
qui,
là, c'est... Tu devrais t'inquiéter si on te traite pas de fou.
Qui veut toujours beaucoup. On m'a toujours tarsé. Bon, voilà, tu es une grande entreprise, tu gagnes beaucoup d'argent, mais c'est quoi de quitter chaque week-end aller faire des interviews? C'est quoi le délit? Tu veux faire quoi avec ça? Tu veux gagner pas assez d'argent? C'est quoi le problème?
Ah, ils auront la réponse d'ici quelques mois. Ils vont comprendre d'ici quelques mois l'impact, l'influence. Les personnes, même pas toi qui vas parler, ce sont les personnes qui sont autour de toi.
Justement, c'est simplement un commentaire quand je vois le matin. Gars, merci beaucoup, tu m'as sauvé, j'allais tomber dans la même erreur. Ça me suffit. C'est moi ce feedback-là, ça me suffit. Yes. Ça prouve que ce que je fais est intéressant. Et ça a beaucoup manqué à l'époque quand j'étais étudiant. Non?
Yes. Merci beaucoup, Franklin. Merci pour ce partage. En toute transparence, parce qu'on est entré même dans les trucs privés, t'étais pas obligé de merci pour tout cela. Donc, les gens, très, très important pour vraiment, montrer que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié l'épisode, allez sur les différents canaux sociaux de l'invité et cliquez un maximum de likes, commentez, dites-lui que vous avez écouté son intervention et que vous avez apprécié ce qu'il a partagé. Revenez bien sûr, donner une mention 5 étoiles sur iTunes au podcast, ça va aussi nous permettre de remonter dans les rankings, de toucher plus de personnes. Merci à toi Franklin, je te souhaite bon vent et j'ai hâte peut-être de qu'on fasse un follow-up, pourquoi pas, peut-être d'ici quelques mois pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à tout ce que tu as lancé. Ok, top. À très vite, ciao, ciao.
Donc, merci beaucoup, Bertrand.
Félicitations, vous avez écouté cet épisode de Débrouillard jusqu'à la fin. Je vous serais très reconnaissant de le partager à 2 personnes autour de vous, d'abonner de force vos potes de podcast sur la téléphone et de me laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. De plus, si vous me laissez votre email sur débrouillardpodcast.com, Je vous enverrai les épisodes hebdomadaires ainsi que tous mes petits bons plans. Pour finir, si vous avez des besoins d'accompagnement pour trouver un nouvel emploi, celui qui vous convient le mieux, toute la team de super séducteurs de recruteurs va vous pomponner comme il se doit afin que vous vous démarquiez de la masse des candidats et que vous séduisiez les recruteurs et enfin que vous soyez l'élu des retenus. Ce peu importe que vous soyez un étudiant en phase terminale et sur le point d'embrasser le monde de l'emploi, un employé dont l'employeur actuel ne répond plus aux attentes ou tout simplement une personne qui veut booster sa carrière ou renégocier son salaire. Pour cela, il vous suffit juste de nous écrire sur superseducteurdecruteurs@debrouillardpodcast.com. Je suis Guy Berthold Tégu et je vous embrasse.